Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Comment ça va les petits amis? Hop là! Bienvenue à toutes et à tous. Petite FAQ politique des familles. Toutoum, qui touche à mes périphériques USB. Non, non, mais c'est moi. Mais c'est parce qu'en fait, mon Stream Deck, il bug et il affiche un espèce d'écran de pause en permanence et on peut rien faire. Et du coup, je suis obligé de débrancher et rebrancher. Je sais pas pourquoi ça fait ça depuis quelques mois et c'est chiant. Voilà. C'est pour quand le prochain round de motion de censure? Pas tout de suite. Plus tard dans le mois, peut-être. Puisque tu réponds à toutes les questions, y aura-t-il une union de la gauche en 2027? Non. Non, on se dirige pas vers une union de la gauche en 2027, non. Jean-Pierre Chalençon en un mot? Non, tu t'es trompé, c'est Pierre-Jean Chalençon. C'est pas Jean-Pierre, c'est Pierre-Jean. Voilà. C'est tout. Je sais pas quoi te dire. J'ai une question un peu technique, mais je trouve pas la réponse. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait passer la carte nationale d'identité de 10 ans à 15 ans de validité? Je crois que c'est uniquement pour des raisons logistiques. C'est qu'en fait, on n'arrive pas à produire assez de nouvelles cartes d'identité. Les délais sont très longs, la production ne suit pas. Et du coup, pour pas qu'il y ait des millions de Français qui se retrouvent dans la merde avec une CNI pas valide, bah, on a décidé de... de les faire durer plus longtemps. Donc voilà, votre vieille carte d'identité peut encore être valide parce que simplement, l'État n'arrive pas à produire les cartes d'identité, quoi. C'est aussi simple que ça. Est-ce que la mienne, elle est valide? Oui, la mienne, elle est valide, elle date de l'année dernière. Oui, c'est bon. En Espagne, la carte, elle est faite le jour même que vous allez la faire. Ah ouais? Bah bravo les Espagnols, parce qu'en France, c'est pas comme ça. En France, tu prends rendez-vous, tu déposes ton formulaire, tes photos, tu donnes ton ancienne carte, et on te réinvite à venir un mois et demi plus tard chercher ta nouvelle carte. Est-ce que les tracts de candidats aux municipales doivent respecter le stop pub? On est sur du tract glissé dans les boîtes à l'arrache, pas les plis avec tous les candidats. J'en sais rien, ça marche comment le stop pub? Parce que c'est le petit autocollant là, on est d'accord, stop pub que tu mets sur ta boîte aux lettres parce que t'en as ras-le-bol de recevoir des fascicules et des conneries. Mais c'est quoi, c'est obligatoire le stop pub? Ou c'est une indication qui dit que je veux pas de pub? Je sais pas. C'est nominatif les enveloppes électorales, donc boîte aux lettres. Non, non, on parle pas des enveloppes électorales, on parle des tracts que les militants viennent. On appelle ça du boitage. C'est tu vas remplir des boîtes aux lettres de tracts dans les immeubles. Est-ce que les militants doivent respecter les stop pubs? J'en sais rien, je sais pas. Je suppose que ce serait bien urbain de leur part d'éviter. Mais il faut les comprendre, ils essayent de convaincre des électeurs. Alors, ils mettent quand même le truc, quoi. Ouais, c'est un souhait, une demande, le stop pub. Ouais, c'est ça, c'est un souhait. C'est tu dis, je veux pas de pub. Bon, bah, il y a des gens qui s'en foutent et qui te mettent quand même de la pub. Hein. Voilà. Y compris des militants politiques. Oui, c'est comme ça. Moi, ça va, j'ai pas à me plaindre. Hein. J'ai pas de pub. J'ai des factures, mais j'ai pas de pub. Il y a pas stop facture. Non. Le non-respect de l'autocollant Stop Pub est depuis le 1er janvier 2021 puni d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe allant jusqu'à 1500 euros. Ah ouais? Oh, putain, je savais pas. D'accord, donc maintenant c'est une obligation légale. Bah, je savais pas du tout, tu vois. Bon, bah du coup, on a la réponse, hein. A priori, un tract politique. C'est de la pub, donc il faut respecter l'autocollant stop pub. Putain, c'est ouf. Quand un député devient maire, c'est le suppléant qui prend sa place de député ou il faut refaire une élection législative partielle? Il faut refaire une partielle. Il faut refaire une partielle. Parce qu'il démissionne de son poste. Donc. Moi, je suis inscrit sur Bloctel et j'ai toujours autant de démarchages. Putain, moi aussi, j'en ai marre, j'en ai marre. Alors, apparemment, Bloctel, vous savez, Bloctel, c'est le service gouvernemental, enfin, c'est le truc de l'État sur lequel tu t'inscris pour ne plus recevoir de démarchages téléphoniques. Apparemment, il faut renouveler son inscription tous les ans. Je croyais qu'une fois que c'était fait, c'était pour toujours, mais en fait, non, apparemment, c'est chiant. C'est giga chiant. Les tracts politiques en période électorale, c'est autorisé dans les stop pubs. Ah ouais? C'est une exception? Oui, parce que c'est pas de la communication commerciale, donc bah, c'est de la propagande politique. Oui. Non, mais ok, peut-être. Oui, peut-être qu'il y a une exception qui a été prévue. Je savais même pas qu'il y avait une loi qui avait été votée qui prévoyait que c'était interdit de mettre de la pub dans les trucs stop pub. Donc ils ont dû prévoir des exceptions, effectivement. Merci, 4 codes. Vraie histoire, j'ai bossé dans un centre d'appel. On avait la liste des gens sur Bloctel et on avait le droit de les appeler. Meilleure anecdote. On s'en bat les couilles. Bon, ben voilà. Ça marche pas super bien, Bloctel. Hein. C'est pas. Un document d'information à caractère politique, distribué seul et qui ne comporte pas d'adresse de destinataire, relève de l'information politique ou de la propagande et n'est pas assimilable à de la publicité. Ok. Eh ben, merci. Putain. Heureusement que vous êtes là, hein. On apprend des trucs. Je savais pas du tout. Je savais pas du tout. On a le droit de propagander. Ouais, vous avez le droit de propagander. Je vous rappelle que le mot propagande, juridiquement, n'est pas un gros mot. Propagande, c'est le terme, notamment la propagande électorale, c'est le terme qu'on utilise pour désigner l'ensemble des artifices de communication des candidats à l'occasion des élections. Ça s'appelle la propagande électorale, c'est le terme juridique exact, et c'est voilà, c'est pas un gros mot. Beaucoup de viewers impliqués pour les municipales. Je sais pas, vous êtes impliqué pour les municipales, vous? Est-ce que vous militez? Est-ce que vous êtes candidat? Est-ce que vous filez un coup de main? Est-ce que vous allez à des meetings, applaudir des gens? Tout ça, je sais pas. Non, du tout. Oui, campagne à Strasbourg, victoire populaire, ok. Non, la flemme. Yabaxit. Non. Ma compagne sur une liste et moi directeur de campagne. Oh, stylé. Comment on fait pour être assesseur dans un bureau de vote de sa commune? Je trouve rien sur la mienne. C'est une bonne question. Il faut que tu appelles la mairie et que tu leur demandes le service des élections et que tu leur manifestes. Ta bonne volonté. Je pense que c'est aussi simple que ça. Enfin, je vais vous essayer de rentrer en contact avec la bonne personne pour lui dire eh, au fait, je suis dispo. Voilà. Ça lui fera plaisir. Probablement en position éligible sur ma liste. Oh, stylé. Bravo. Je colle des affiches et j'en décolle certaines. Moi, je vais essayer de me motiver à aller à des meetings. Ouais, je vais aller à des meetings. Enfin, je sais pas, je dis ça, je verrai, c'est l'année, ce sera l'année prochaine, mais est-ce que je vais à un meeting de Rachida Dati? Ce serait bien que j'aille voir ça. Putain, du coup, on en a parlé hier, on en a parlé hier en stream, le documentaire La Bataille de Paris. La Bataille de Paris, le documentaire de Claude Riche qui a été réalisé en 2001, qui raconte l'arrivée au pouvoir de Bertrand Delanoë. Et bah du coup, hier, pour m'endormir, je l'ai re-regardé. Pour la 20e fois, je crois, parce que je le connais par cœur, ce documentaire. Et putain, il est goldé, ce docu, il est incroyable. Il est trop bien. Je vais au meeting de Jean-Luc Mélenchon ce soir. Eh bah, bien, très bien. Formidable. Sinon, un meeting de Louis Sarkozy à Cannes. Non, il va pas le faire à Cannes, il va le faire à Menton. Ben non, mais j'habite pas là, moi, je peux pas aller le voir. Sinon, je serais allé le voir. Je suis quand même très curieux. Meeting de Louis Sarkozy. Est-ce que c'est payant un meeting politique? Bien sûr que non. Ah non, meeting politique, c'est plus que gratuit. C'est gratuit, ouvert à tous, ouvert aux quatre vents. Venez le plus nombreux possible. Ah non, 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 un meeting, c'est giga gratuit. Au contraire. Encore heureux, bah ouais, oui, bah oui, encore heureux. Oh, réunion politique, c'est évidemment gratos, hein. Vous êtes plus que bienvenus. Les partis politiques adorent quand des personnes qui sont pas dans le parti, etc., viennent. Ils sont super contents. Ils sont là pour recruter, donc ils sont trop contents que vous soyez là. Ah, moi j'ai un souvenir. Merci Vélania. J'ai un souvenir. Les élections municipales de 2008. Les élections municipales de 2008. Il y avait eu un truc trop bizarre, c'est que les services de renseignement français avaient intercepté des menaces directes de la part de membres d'Al-Qaïda à l'époque, qui visaient nommément Nicolas Sarkozy, président de la République, et Bertrand Delanoë. Pourquoi Bertrand Delanoë, pourquoi le maire de Paris était visé nommément, etc. Peut-être parce qu'il était ouvertement homosexuel et tout, j'en sais rien, mais morale de l'histoire, la campagne de Bertrand Delanoë en 2008 s'est faite sous haute protection policière. Il avait des gardes du corps partout autour de lui. Il détestait ça. Il avait horreur de ça, Bertrand Delanoë. Il voulait aller serrer des mains, embrasser des gens. Faire campagne, quoi. Je veux dire, le mec, il est maire de Paris. En plus, Delanoë, je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous voyez à peu près le bonhomme que c'est, mais. Profondément chaleureux, il adore les gens, il adore la foule, il adore la fête et tout. Enfin, et donc il était super saoulé. Et les meetings de Delanoë, il y avait des portiques de sécurité à l'entrée. Il y avait une ambiance, c'était horrible. C'était vraiment. Et par ailleurs, oui, c'est vrai, je vous rappelle que Bertrand Delanoë a été victime d'une tentative d'assassinat quand même. Bertrand Delanoë a reçu un coup de couteau en 2001-2002. Donc oui, c'était... Non, non, c'est... Enfin... Ouais, je me souviens de la campagne 2008. Lourde l'ambiance. Pas marrant. Est-ce que ce serait légal de payer des gens pour assister à un meeting? Ce serait minable. Ça, c'est sûr. Est-ce que ce serait légal? Alors, je me souviens que Valérie Pécresse s'était faite épingler par la presse parce qu'elle avait organisé un espèce de meeting pour le lancement de son parti politique qui s'appelle Libre, il y a quelques années, et que apparemment elle avait... Enfin, ses équipes avaient convié des associations culturelles de partout en Île-de-France, notamment des associations de personnes de pays étrangers. Genre l'association des Chinois d'Île-de-France, l'association des Sri Lankais de Paris, l'association des Burkinabés, machin, enfin tu vois. Et en gros, ils avaient rameuté plein de gens comme ça, du coup il y avait l'impression d'avoir une foule monstrueuse. Et en fait, les gens, on leur avait pas dit qu'ils venaient à un meeting politique. On leur avait dit qu'ils venaient à une journée, un pique-nique, je crois. Une journée sympa, rencontre interassociative, ou je sais pas quoi, où les gens étaient contents de venir. Et en fait, non, c'était carrément un événement de Valérie Pécresse pour lancer son parti. Ça, c'est illégal, voilà, ça, c'est illégal. On n'a pas le droit de faire ça. Techniquement, il y a eu de la rencontre interassociative. Ah bah ouais, il y a eu. Mais en plus, c'était marrant parce que je crois qu'il y avait des journalistes qui avaient réussi à s'incruster à ce truc-là et qui avaient filmé. Et tu voyais qu'il y avait des gens qui savaient pas ce qu'ils faisaient là, qui étaient en mode oh, on passe une super journée, c'est sympa, c'est un pique-nique. J'ai rencontré des Vietnamiens super sympas. Moi, je suis burkinabé, trop cool. Et le journaliste qui dit, mais vous savez qui c'est Valérie Pécresse? Hein? Non, jamais entendu parler, c'est qui? La présidente de la région Île-de-France. Ah bah très bien, et alors? Bah c'est elle qui est en train de parler là, sur scène. Ah bon, très bien, et elle raconte quoi? Oh. Vraiment le raout nul. C'était très très marrant. C'était peut-être Yann Barthès d'ailleurs. C'était peut-être Yann Barthès qui avait fait ça à l'époque déjà. Donc ouais, non, payer des gens pour qu'ils viennent à ton meeting, putain, la tristesse. Oh, le flop de ta campagne. Ça va. Non, c'est nul. Est-ce qu'elle a été poursuivie pour ça, Pécresse? J'en sais rien. Je sais pas s'il y a eu des suites à ce truc-là. Pécresse payait des gens pour aller à son meeting? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Personne n'était payé. Mais elle avait opportunément fait venir des bus entiers de gens, de badauds. En leur vendant ça comme une journée pique-nique. Donc méfiez-vous, hein, méfiez-vous des journées pique-nique. Si on vous propose un pique-nique sympa avec plein de gens, il y a moyen que ce soit un meeting politique de je sais pas qui. Vous risquez de mal tomber, hein, ça peut être dommage. T'as pas envie de participer à ça. Oh non, oh merde. Moi j'étais venu pour les merguez. Merci Isoréa, merci. Souvent il y a des buffets sympas dans les meetings. Ouais, tout le monde n'y a pas accès aux buffets sympas dans les meetings. Je vous avais raconté cette anecdote, qui est une anecdote célèbre, de Nicolas Sarkozy en campagne présidentielle en 2012, je crois, qui faisait un meeting à Nice. Et il y avait, à l'intérieur de la salle du meeting, il y avait un espace VIP réservé pour les élus du parti, pour les députés, les sénateurs, les élus locaux qui sont là, etc., machin. Il y avait un petit espace qui était séparé du reste de la salle par un rideau. Et le truc, c'est que, dans cet espace VIP, il y avait un buffet. Il y avait un buffet, et évidemment, c'est l'UMP, donc ils avaient fait un buffet avec des pâtes aux truffes. Et du coup, les militants qui quittaient le meeting en marchant le long du rideau, ils sentaient l'odeur de truffes et ils entendaient le tintement des coupes de champagne derrière le rideau. Oh, putain, non, mais faites ça discrètement, putain. Quelle horreur. C'est vraiment passé pour des cons. J'ai regardé le docu sur la mairie de Paris. Est-ce qu'on sait pourquoi Jack Lang s'est porté candidat et pourquoi il s'est désisté? Bah oui, évidemment. D'ailleurs, c'est raconté dans le docu. Jack Lang était maire de Blois, mais Jack Lang se faisait un peu chier à Blois. Jack Lang, il voulait être maire de Paris. Beaucoup plus chic, beaucoup plus classe. Jack Lang, auréolé de sa gloire d'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand, tout le monde l'adorait. Jack Lang, Jack, extraordinaire. Il était invité dans tous les médias. D'ailleurs, on le voit dans le documentaire. Hein. Il fait les télés, il fait les radios, il est invité partout, alors que Delannoy était un inconnu qui était invité nulle part. Et il s'est déclaré candidat à la mairie de Paris. Et il a retiré sa candidature parce qu'il a été rappelé en urgence au gouvernement par Lionel Jospin. Rappelez-vous, Lionel Jospin, qui avait eu l'idée pas brillante de nommer Claude Allègre ministre de l'Éducation nationale, et Claude Allègre qui a réussi le tour de force en 3 ans de faire partir tous les profs de l'électorat socialiste. Alors vraiment, il a réussi à se fâcher avec tout le monde, enfin, mais c'était lunaire. Et du coup, en catastrophe, Lionel Jospin rappelle Jack Lang en lui disant: Écoute, Jack, là j'ai besoin de toi, faut que tu viennes rattraper les conneries de l'autre con, dépêche-toi. Et donc, du coup, Jack Lang rentre au gouvernement et renonce à sa candidature à Paris, laissant le champ libre à Delannoy. Voilà. Il a un appartement pas loin de l'hôtel de ville. Bien sûr, place des Vosges. Encore aujourd'hui d'ailleurs, je crois que Jack Lang habite toujours place des Vosges. C'est un homme de goût, c'est un homme de goût, Jack Lang. Vingt-cinq ans plus tard, on voit qu'Allègre n'avait pas forcément tort. Tort de quoi? Alors politiquement, on peut en discuter. Sur tout ce qui est changement climatique, par contre, si, il avait carrément tort. Ouais. Non, si, il a même été scandaleux, Claude Allègre, dans son climato-scepticisme étalé dans tous ses bouquins et sur tous les plateaux de télé pendant 10 ans. Merci Pokazowan. Merci Pokazowan. On parlait de l'école, mais jolie esquive. Ah, l'école! Ben, si, non, non, mais si tu trouves qu'il y a trop de fonctionnaires à l'éducation nationale, tu peux soutenir Claude Allègre. C'est effectivement lui qui a dégraissé le mammouth, pour reprendre sa propre expression, et qui s'est mis à dos tous les syndicats d'enseignants. Mais vas-y, hein, pars en croisade contre les syndicats d'enseignants, si tu veux. Ce sera sans moi. Claude Allègre, c'est un peu la bêta de Didier Raoult. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Merci, Zetni. Est-ce que les résultats des municipales nous donneront la couleur pour les présidentielles? Non. Non. Enfin, c'est la question qu'on se posait la semaine dernière sur le plateau de Baxit. C'est est-ce qu'on peut avoir une interprétation nationale du résultat des élections locales? Ça peut te donner une indication intéressante sur des dynamiques, mais ça peut pas t'aiguiller sur les résultats d'une élection présidentielle. La preuve, en 2020, les socialistes ont fait une assez bonne campagne municipale. Ils ont réussi à être reconduits dans un certain nombre de villes qu'ils dirigent. Les écologistes ont fait une percée. 2 ans plus tard, en 2022, les écologistes et les socialistes se sont pété la gueule à la présidentielle. Donc, est-ce qu'on peut vraiment tirer des leçons des municipales en se disant que c'est la preuve que... Pas vraiment. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Le vote RN peut donner une forte indication pour 2027. Ça peut, mais on a vu par le passé que le Rassemblement national, dans les élections locales, il s'en sort pas si bien que ça. Hein. Je vous rappelle les élections régionales où le Rassemblement national pensait être en mesure de diriger deux régions, ils en ont eu zéro. Les élections municipales de 2020 pour le Rassemblement national, ça n'a pas été non plus... Alors, ils ont fait des bons scores, notamment dans le Nord et dans le Sud. Mais ça n'a pas été non plus la folie hein, en termes d'implémentation locale, le RN. Bon, bah, ça n'a pas empêché Marine Le Pen de faire un excellent score à l'élection présidentielle 2 ans plus tard. En 2026, là, j'ai bien peur que le RN prenne pas mal de villes moyennes. On verra. On verra. Surtout si la gauche est divisée et qu'elle ne se rassemble pas au second tour, oui, c'est possible. Chez nous, on a Estrosi contre Ciotti à l'aide. Ah, t'habites à Nice? Courage. Apparemment, ça se passe très très mal la campagne entre Estrosi et Ciotti. Pas étonnant, pas étonnant. Alors que c'est deux vieux potes, exactement. Quand est-ce que les listes sont définitives pour les municipales? C'est pas tout de suite, les listes pour les municipales, c'est février, je crois. On a le temps, hein. C'est le 26 février à 18h. On a le temps, on a le temps. 26 février à 18h, date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour. On vous a pas tout de suite. Est-ce que tu penses que la gauche veut vraiment se réunir pour les présidentielles? Ah non, je pense que la gauche veut vraiment pas se réunir pour les présidentielles. Ni les insoumis ni les socialistes n'ont envie de faire d'alliance pour l'élection présidentielle. Donc non, il n'y aura pas d'union de la gauche au premier tour de l'élection présidentielle. Second tour, on verra ce qui se passera, mais premier tour, non. Chez moi, il n'y a jamais eu de suspense pour les municipales. Il n'y a qu'une seule liste qui se présente sans affiliation à un parti composé de certains habitants de la commune. Oui, bah tu vis dans une petite commune et ce que tu décris, c'est le lot de l'écrasante majorité des petites communes. Il y a une seule liste. C'est la liste des gens motivés pour être au conseil municipal et on vote pour et merci, au revoir. On fait qu'un seul tour, il n'y a pas deux tours à l'élection. Est-ce que ce sera Glucksmann au PS? C'est pas sûr que ce soit Raphaël Glucksmann au Parti socialiste. Glucksmann, il est de son côté avec son parti Place Publique et il prépare sa candidature à l'élection présidentielle. Le Parti socialiste de son côté avec Olivier Faure, ils sont dans le processus Front Populaire 2027, qui est le nom du rassemblement de plusieurs partis de gauche qui veulent organiser une primaire ensemble. Si le PS va jusqu'au bout de cette logique-là, le PS ne soutiendra pas Raphaël Glucksmann. Liste des gens motivés ou intéressés personnellement dans des petites communes. Ah, parce que tu crois qu'il y a des intérêts personnels à être au conseil municipal? Vraie question, si personne ne se présente pour la mairie, ça se passe comment? Si personne ne se présente à une élection municipale, la mairie passe en gestion par la préfecture. C'est l'autorité préfectorale qui prend la main sur la gestion de la mairie. Et ça arrive à chaque élection municipale. Il y a des villes, notamment des villages, dans lesquels le maire, qui était là depuis 40 ans, qui était bien gentil, bah il est mort. Qui est-ce qui veut prendre sa place? Personne. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Rien. Il n'y a plus de maire dans la commune, c'est fini. C'est le préfet qui gère. Est-ce que les nouveaux maires ont le droit à une formation? Oui, absolument. Il existe des crédits de formation des élus pour les conseillers municipaux, pour les exécutifs, etc. Il y a des formations, il y a des documents, il y a des bouquins, il y a beaucoup de choses qui existent, qui accompagnent les nouveaux élus. D'ailleurs, vous, si vous êtes élu pour la première fois de votre vie aux prochaines municipales, ce que je vous souhaite, vous allez recevoir des formations. Je ne sais pas exactement comment c'est organisé au niveau local, etc. Mais il y a des organismes de formation spécialisés. Moi, je connais plein de gens qui bossent dans des entreprises spécialisées dans la formation des élus locaux, pour les accompagner, les aider, répondre à toutes leurs questions, etc. Ça reste comme ça ou dans le futur, on peut se présenter une liste dans le futur? Non, non, on peut. La préfecture dirige la ville tant qu'il n'y a pas de maire, mais si à la prochaine élection municipale, il y a des habitants motivés qui se disent c'est quand même trop con de pas avoir de maire, venez, on fait une liste, et bah très bien, il y aura une élection, il y aura une liste, et voilà. Est-ce que les maires sont obligés de résider dans leur commune? Non. Non, non, non. Je crois qu'ils doivent être inscrits sur les listes électorales dans la commune, par contre. Je crois. Est-ce que la taille de la liste dépend de la taille de la commune? Oui, absolument. Quand vous présentez une liste pour une élection municipale, vous devez présenter une liste qui contient autant de noms qu'il y a de places au conseil municipal. Merci, Dadao. Donc si c'est une ville, je ne sais pas combien d'habitants, il y a 15 membres du conseil municipal, vous devez présenter une liste de 15 noms, pas un de plus. Voilà, donc ça dépend de la taille de la ville. Y a-t-il des maires dans les villages sans habitants? Si oui, comment est-il élu? Oui, il y a des maires pour ce qu'on appelle les communes, alors vous avez peut-être entendu parler, les communes mortes pour la France. Je crois qu'il y en a 6 qui se trouvent dans l'Est, dans la Marne, du côté de Verdun. Ce sont des communes qui ont des villages, hein, qui ont été entièrement rasés par la Première Guerre mondiale. Et la France, pour rendre hommage et se souvenir de ces villages, a décidé de conserver ces villages comme des villages français existant toujours. Si vous allez visiter les vestiges des champs de bataille, vous verrez, c'est assez impressionnant. Il y a un champ, il y a un grand champ, il n'y a rien. Et au milieu du champ, sur le bord de la route, il y a un panneau, comme quoi vous entrez dans la ville de Saint-Martin, le machin, j'en sais rien, peu importe. Et en fait, il n'y a rien devant vous. Vous avez un panneau d'entrée du village, et en fait, là, il y a eu un village. Il n'est plus là, mais il y en a eu un. Et vous faites 500 mètres, et 500 mètres plus loin, il y a un panneau de sortie du village. Et donc, ces villes existent toujours, elles sont toujours comptabilisées dans les registres officiels, légaux, etc. Et elles ont des maires qui sont nommés par le préfet, et qui sont généralement des gens investis dans les associations d'anciens combattants, qui ont un rôle évidemment symbolique et honorifique. Merci Benerzel. Et qui sont là pour représenter ces communes mortes pour la France dans les cérémonies de mémoire, notamment de la Première Guerre mondiale. Voilà, mais ce sont, ouais, ça existe vraiment. Est-ce que c'est vrai qu'en France, on a beaucoup plus de maires qu'ailleurs? Oui, c'est vrai. La décentralisation en France et l'organisation territoriale fait qu'on a une subdivision démocratique qui est la commune, qui est l'une des plus petites d'Europe. Et on a 36 000 maires en France, mais l'écrasante majorité d'entre eux sont des maires de toutes petites communes de quelques centaines d'habitants qui ont très peu de pouvoir, très peu de budget, très peu de quoi que ce soit. Comment ça se passe pour mélanger son activité pro et une activité de maire? C'est dicté par la loi, genre 2 jours par semaine pour être maire? Non, c'est pas dicté par la loi. C'est un peu au petit bonheur la chance. Alors, si tu travailles dans la fonction publique, tu peux obtenir une décharge pour ton mandat d'élu local. Je crois que c'est prévu dans le statut de la fonction publique. Si tu travailles dans l'entreprise, tu peux organiser avec ton employeur un temps partiel. Si tu es profession libérale, tu te démerdes. Mais il y a plein de maires, notamment, je vous parlais des maires de petites communes rurales, il y a plein de maires qui sont agriculteurs. Hein. Les mecs, ils ont leur exploitation agricole, ils vivent leur vie, enfin, ils font leur truc. Hein. Il y a des médecins, bah, ils ont leur cabinet, ils reçoivent des patients, voilà. Donc si demain je suis maire, je dois cumuler avec mon boulot classique, mais si mon employeur ne veut pas, bah t'es dans la merde. Je suis désolé, il n'y a pas de réponse. Hein. Et si ton employeur fait la sourde oreille, il veut rien entendre, il veut pas t'accorder un aménagement de temps, tu vas être obligé de quitter ton emploi et d'en trouver un autre. J'ai dit une... Mais ce que je suis en train de dire est applicable à beaucoup de situations, hein, pas seulement le fait d'une élection. Il y a des communes qui ont fusionné ensemble, mais est-ce qu'une commune qui a été rattachée à une autre peut à nouveau se détacher? Ouais. Non, 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 qu'est-ce que je raconte? À ma connaissance, non, il n'y a pas de possibilité de rompre une fusion de communes. Une fois que c'est fait, c'est fait. J'ai un doute là-dessus. Parce que les EPCI, c'est encore autre chose. Est-ce qu'une nouvelle ville peut apparaître? Bien sûr, on appelle ça les villes nouvelles. Vous vous souvenez peut-être des villes nouvelles, Marne-la-Vallée, etc., dans les années 90, les années 80, etc. Bien sûr, les villes nouvelles. Avec des grands projets d'aménagement urbain, créer de l'activité économique, loger des gens et tout. Oui, bien sûr. Villeneuve-d'Ascq, Sophia Antipolis. Ouais, vous avez raison. Sénart, ouais, Sénart, bien sûr, Sénart. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de métropoles? Bah, elles sont déjà assez bien identifiées, les métropoles, on va pas en inventer, hein. Après, il y a des questions pour savoir si on délègue davantage de pouvoir aux métropoles, si on fusionne des compétences, des trucs comme ça. Pourquoi les politiques font pas une ville nouvelle pour mettre tous les SDF dans les maisons de cette ville? Les nazis faisaient ça. Ouais, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Pas laissé un bon souvenir. Il y a 90 000 communes en Europe, dont 36 000 en France. Ça, c'est ma France. Ça, c'est ma France. La France des clochers. Nous, on a des communes, monsieur. On n'a pas de pétrole, mais on a des communes avec des maires et des écharpes tricolores. Putain, on a plus du tiers. On a plus du tiers des communes d'Europe. Mais après, à mon avis, c'est, enfin, à discuter, mais à mon avis, c'est une comparaison qui est un peu absurde parce que ça ne veut pas dire la même chose. Quand on utilise le mot commune pour désigner un truc en France, on ne parle pas exactement la même chose en Espagne, en Italie, en Allemagne. Il y a des organisations différentes, il y a des compétences qui ne sont pas les mêmes, il y a des machins. Je viens de regarder, les salariés élus ont un crédit d'heure selon le nombre d'habitants. Ah ouais? Bah c'est très bien ça. Ça doit faire partie des lois qui ont été votées ces dernières années pour renforcer un petit peu les élus locaux. La possibilité de donner des droits aux salariés pour pouvoir effectuer leur mandat. Donc ça veut dire qu'en fait, les salariés ont un droit à demander à la RH un crédit d'heure correspondant à leur élection, à leur mandat local, pour pouvoir faire leur boulot d'élu. Ok. Non, mais très bien, c'est très bien. Il faut, hein. T'imagines comment ils font les autres, quelle différence dans leur organisation? Les autres pays d'Europe, je sais pas les gars, je connais pas l'organisation territoriale de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Espagne et de l'Italie, je sais pas très bien comment ils fonctionnent. Je suppose que c'est différent de chez nous, il doit y avoir des trucs assez proches, mais j'avoue que je sais pas très bien comment ils s'organisent. Tu vois, la notion de département, la notion de région, la notion d'EPCI, la notion de commune. Je ne sais même pas comment ça se traduit dans leur langue. Je ne sais pas quelles sont les compétences, quels sont les budgets, quel est le pouvoir de l'État central, etc. Je ne sais pas. C'est quoi la décentralisation? J'ai souvent entendu ça. Oui, la décentralisation, pardon, ça fait partie de ce jargon technique qu'on utilise quand on parle de politique. La décentralisation, c'est le fait de rendre le pouvoir au territoire pour permettre aux gens du coin de décider des choses qui relèvent de la compétence du coin. La France est un pays centralisé, ça c'est vrai, ça a toujours été vrai. C'est à Paris que beaucoup de décisions se prennent, les ministères, le Parlement, etc. Mais la France est aussi une république décentralisée parce que nous avons des communes, nous avons des départements et des régions qui sont autant de strates de collectivités territoriales dans lesquelles sont décidées localement des choses qui relèvent du pouvoir local. Une forme de délégation du niveau national vers le local. C'est ça là. On décentralise la France pour que ce soit plus des fonctionnaires parisiens qui décident pour les Marseillais de trucs qui concernent les Marseillais. Alors ça, évidemment, c'est pas toutes les compétences. La police, par exemple, est nationale, évidemment. L'armée est nationale. L'éducation est nationale. Mais au niveau local, tu as le périscolaire, tu as la police municipale. Voilà, tu peux décider de certaines choses et mener des politiques au niveau local. Voilà, c'est ça qu'on appelle la décentralisation. C'est quoi la différence avec la déconcentration? Alors la déconcentration, c'est l'autre terme technique accolé à la décentralisation qui concerne cette fois-ci la délocalisation des prises de décision du pouvoir national au niveau local par des autorités qui représentent le pouvoir national. Ce sont les préfets. Les préfets ne sont pas des élus locaux, certainement pas, ce sont des fonctionnaires nommés par le ministre de l'Intérieur, donc par le gouvernement national. Et le préfet a des pouvoirs et prend des décisions dans son département au nom de l'État. Évidemment, il travaille en lien avec les élus locaux. Les préfets sont au téléphone toute la journée avec des maires, avec des conseillers régionaux, etc., pour discuter de plein de dossiers, mais ils représentent l'État dans les territoires. C'est ça qu'on appelle la déconcentration. C'est l'équivalent, d'ailleurs, de l'époque de l'absolutisme royal. Tu avais le représentant du roi dans la province. Comment on l'appelait ? C'était pas le bailli ? J'ai un doute, je sais plus. Les historiens du chat, vous vous souvenez ? T'avais le représentant du roi qui, dans la province, faisait la pluie et le beau temps. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de démocratie, donc ça m'a... Voilà, mais c'était lui le taulier au niveau local. Évidemment, il n'était pas supérieur au roi, certainement pas. Il était là par délégation royale. L'intendant, ouais, peut-être l'intendant, le sénéchal, le gouverneur. Je sais pas. C'est le sénéchal au sud et le bailli au nord. Ah. Ça dépend de l'époque. Ouais, non, ça doit dépendre de l'époque. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez le représentant du roi. Bah là, c'est pareil. Il n'y a plus de roi en France, il y a une république à Paris, avec un gouvernement de la République, et il y a des préfets dans chaque département qui sont les représentants du gouvernement dans le département. Donc c'est ça qu'on appelle la déconcentration. Quand vous entendez déconcentration, pensez préfecture. Quand vous entendez décentralisation, pensez maire. Écharpe tricolore. Voilà. Il n'y a pas que les préfectures, hein. Il y a les agences régionales de santé, il y a les académies pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Il y a sûrement plein d'autres trucs d'ailleurs, j'en sais rien, mais voilà. La déconcentration, c'est l'État au niveau local. La décentralisation, c'est les élus locaux. Ouais. Oui, c'est ça. La décentralisation, c'est ce qui a fini par créer les grandes EPCI ou les fusions de communes. Oui, alors la décentralisation, elle a une longue histoire, elle a été portée par la gauche, elle a été appliquée par François Mitterrand dans les années 80, les grandes lois de la décentralisation en France, c'est 1982, et puis ensuite il y a eu plein de... Je vous passe tous les débats qu'il y a eu d'organisation territoriale de la République, il y a eu la loi NOTRe aussi, en 2013 je crois, avec François Hollande, et la fusion des régions... Et oui, il y a eu plusieurs mouvements. Ce qu'on appelle les EPCI, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale. C'est un mot tout à fait barbare pour désigner les associations de communes. On va dire ça comme ça. C'est une assoce de communes. Tu as 5-6 communes voisines les unes des autres qui décident de créer ensemble une assoce pour se dire « venez, on met nos forces en commun ». Pour financer des trucs cool qui seront bénéfiques à tout le monde. Et ben oui, voilà. Il crée ce qu'on appelle un EPCI. Communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole, etc. Il y a plein de noms différents. Tout ça est très subtil et technique. Ça me rappelle avec horreur mes cours de droit. J'avais des fiches de révision atroces. Je devais apprendre par cœur les compétences, les financements, l'autonomie, etc. Les cantons, alors les cantons, à ma connaissance, ça n'existe plus. Les cantons, ça a été une circonscription électorale pour les élections départementales. Et c'était dans les cantons qu'on élisait. Je sais plus comment ça marchait, scrutin uninominal. Majoritaire à deux tours, je ne sais plus, pour élire les conseillers départementaux. Ça a été réformé, maintenant c'est, ça marche plus comme ça. C'est pas aussi les cantons qui sont utilisés pour les législatives. Non, 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 non. Pour les législatives, c'est pas les cantons. Pour les législatives, c'est les circonscriptions législatives. Je crois que les cantons, c'est encore utilisé par les gendarmes. Je sais pas s'il y a des gendarmes dans le chat, vous pourrez peut-être confirmer. Mais je crois que les gendarmes du département, ils continuent à découper le département avec les anciens cantons pour organiser leur travail, leur surveillance, leur je sais pas quoi, machin. C'est peut-être utilisé par les postiers aussi, pour leur tournée de poste. Je sais pas, j'ai un doute, là, je m'aventure dans des eaux que je connais pas. Canton, communauté de communes, circonscription, tellement de manières utilisées en même temps pour découper le territoire. Bah ouais, parce qu'à chaque fois, ça relève d'une logique différente. C'est ce que je vous ai toujours dit sur. Merci, Télante. Un département, par exemple, un département, ce n'est rien d'autre qu'un trait sur une carte qui délimite un territoire qu'on appelle département. Mais c'est rien d'autre que ça. À l'intérieur du département, les pouvoirs sont organisés dans plusieurs institutions différentes. Vous avez la préfecture, qui représente l'État, et vous avez le conseil départemental, qui représente les citoyens et qui vote et qui décide dans le cadre des compétences des conseils départementaux. Les départements ont été construits de telle sorte qu'on devait pouvoir rejoindre en une journée à cheval le chef-lieu. Absolument. Absolument. Il y a eu des grands débats au moment de la Révolution française pour savoir comment on allait découper le territoire. Évidemment, on voulait abandonner les anciennes provinces d'Ancien Régime qui rappelaient trop la monarchie. Il y a eu des propositions hyper bourrines. Il y a eu des propositions hyper bourrines. Je me souviens d'une carte de France. C'était des révolutionnaires un peu vénères qui avaient proposé ça, qui découpaient le territoire dans des carrés parfaits. Il n'y avait aucune logique territoriale. C'était vraiment, on claque une grille comme ça sur le territoire. Hop là, un carré parfait, un département chacun. Alors, non, on va pas faire ça. Et donc, ils se sont mis. Ils sont mis autour de la table et finalement, il y a eu plusieurs allers-retours. Ils ont fini par reprendre certains tracés de province parce que ça avait du sens, machin et tout. Et la logique propre à la construction de l'échelle départementale, c'était effectivement la possibilité de rejoindre le chef-lieu du département à cheval, en une journée de cheval, pas plus. Voilà, c'est comme ça qu'on a découpé les départements, historiquement. Les sous-préfs, ça existe encore? Oui, les sous-préfectures, évidemment, ça existe toujours, les sous-préfectures. Le préfet, il est dans le chef-lieu du département. Et ensuite, dans les plus petites villes, il y a des sous-préfectures. Bien sûr. Alors que revoilà la sous-préfète. Il me semble qu'un des objectifs à long terme de l'Europe est de fabriquer à terme des eurorégions type région chez nous. Alors il y a déjà des eurorégions, c'est le cas notamment de la région Grand Est. Alors je ne sais plus exactement quelles sont les compétences spécifiques des eurorégions. J'ai un peu zappé ce chapitre-là, je ne sais plus. La CEA, ouais c'est ça, la CEA, la Collectivité européenne d'Alsace. Je suis colistier pour les municipales et je voulais savoir si c'était possible de se former pour être conseiller municipal en dehors des formations proposées par la mairie une fois que tu es en place. Bah, je sais pas, oui, t'as Google, quoi. Alors, tu peux contacter un centre de formation des élus, par contre, il va falloir le financer, le truc. Sinon, t'as Google, sinon, t'as ma chaîne, sinon, non, je sais pas. Pourquoi tu veux te former en dehors des formations déjà prévues? Demande à la préfecture, ouais. Oui, la préfecture, les élus locaux, les autres élus locaux, demande aux autres élus locaux. Non, et puis, comme je vous l'avais déjà dit, si vous êtes élu conseiller municipal pour la première fois de votre vie l'année prochaine, vous inquiétez pas, vous allez apprendre, hein. Vous allez écouter, vous allez venir à des réunions, vous allez poser des questions, vous allez rencontrer des gens, vous allez travailler sur des dossiers, vous allez apprendre en faisant. C'est pas. Ça s'apprend, enfin, il n'y a rien de magique. Vous allez faire des erreurs, évidemment, vous allez faire des erreurs. Vous allez apprendre à expliquer aux gens que leurs problèmes ne relèvent pas de la compétence de la mairie. Vous allez voir, c'est une compétence très utile parce que y a. Ouais, je suis désolé, madame, je comprends bien. Non, non, je comprends bien. Mais la mairie peut rien faire pour vous. C'est la préfecture qui peut faire, madame. Il faut aller à la préfecture. Merci, Hugo. Merci, Christobis. C'est jamais la préfecture, c'est toujours le conseil départemental ou régional. Ah bah évidemment, la préfecture se fera une joie de vous envoyer chier en vous disant que c'est pas une compétence préfectorale. Évidemment, évidemment. Moi, il y avait une maman d'élève qui m'avait écrit, elle était un peu déboussolée, la pauvre, elle me disait, je suis terrifiée, mon fils n'a pas eu le bac. C'était au moment des résultats du bac. Mon fils n'a pas eu le bac, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non. Déjà non, et ensuite non. Je suis désolé. Après, je lui en veux pas. Elle était déboussolée, elle était effondrée, etc. Machin. D'accord, je comprends, madame. C'est pas un moment rigolo, mais là, je ne peux rien faire. Hein. On va l'embaucher aux espaces verts. Il a essayé la police. Je lui dis non, non, bah c'est la compétence de l'éducation nationale. Vous voyez avec le rectorat pour obtenir la copie. J'en sais rien, je sais pas quoi vous dire. À cause de toi, un enfant a raté sa scolarité. Ah, c'est de ma faute. Il va finir streamer, vous allez voir. Mais si vous avez des questions sur la politique, etc., si vous avez des questions que vous vous posez sur le fonctionnement de la politique et que je peux vous aider, c'est avec grand plaisir, n'hésitez pas. Vraie question, quand on a un Balkany en face à une élection municipale, on se bat comment? On convainc les électeurs. On fait du porte-à-porte, on fait du diffusion de tracts, du collage, des réunions publiques, des arguments, des posts sur les réseaux sociaux, on fait campagne. Au pire, tu es dans l'opposition, il n'y a rien de mal à y être. Oui, par ailleurs, je suis d'accord avec toi, au pire, tu es dans l'opposition et c'est très bien d'être dans l'opposition à Balkany. Quand t'es maire, t'as des questions à la con, du genre les feuilles d'arbres, elles tombent, c'est pas normal. Tous les jours. Tous les jours. Il y a des gens qui viennent à la mairie pour. Il y a des gens qui viennent à la mairie parce qu'ils ont un évier bouché, hein. Et c'est, enfin, faut pas en vouloir aux gens. Il y a un côté guichet, c'est ouvert, c'est du service public. Enfin, voilà, je viens poser la question au guichet, je sais pas comment faire, j'ai un évier bouché. Il faut contacter un plombier. Voilà. Mais il y a plein de gens qui sont perdus aussi, tout simplement, hein. Et bah, les gens ne sont pas diplômés de droit, spécialistes de la décentralisation et des compétences des collectivités territoriales. Donc, quand ils savent pas, ils vont poser la question. Combien d'assistants parlementaires a droit à un député? Les députés, ils ont une enveloppe mensuelle de 10 000 euros, je crois, dans ces eaux-là, sur laquelle ils peuvent payer des assistants parlementaires. En général, en moyenne, les députés, ils ont trois assistants parlementaires, deux à Paris et un en circonscription. Ensuite, il y a des députés qui ont des responsabilités supérieures à l'Assemblée nationale, les présidents de commission, les présidents de groupe, la présidente de l'Assemblée nationale. Et eux, ils ont une enveloppe plus importante qui leur permet d'avoir plus d'assistants parlementaires. J'habitais dans un tout petit bled et les Parisiens sont allés voir le maire pour se plaindre des oiseaux qui chantaient le matin et savoir ce qu'il comptait faire. Non, mais on en parlait l'autre jour, mais oui. Ça, c'est le genre de truc quand tu vis en mairie. Non, mais je vous jure, enfin, vraiment, je pense qu'un des stages les plus intéressants qu'on peut faire dans sa vie, au moins une fois, c'est d'être agent d'accueil dans une mairie. C'est un apprentissage du quotidien, des problématiques des gens, de la désorientation des gens, de la complexité du système, du désarroi, des situations très difficiles aussi. C'est pas que marrant, mais ouais, c'est extraordinaire. C'est à ça que servent les 7K environ de salaire des députés et des sénateurs? Non. Non, non. Les députés et les sénateurs, ils ont trois enveloppes. Ils ont une enveloppe qu'ils vont toucher sur leur compte en banque personnel, qui est leur revenu à eux, ce qu'on appelle l'indemnité des députés et des sénateurs. C'est pas leur salaire, parce que c'est pas le bon mot, ce qu'on appelle une indemnité. Ils ont une deuxième enveloppe qui leur permet d'embaucher des collaborateurs et collaboratrices. Ils voient avec eux le niveau de salaire, etc. Ils embauchent, ils se démerdent, mais c'est une ligne de crédit sur laquelle ils ont la possibilité d'embaucher. Et ils ont une troisième enveloppe qui sont les frais de mandat, les frais de représentation, qui permettent aux députés de couvrir certaines de leurs dépenses. Merci Nota Bene. Merci Ben. Des gros bisous. Bonjour, bienvenue les viewers de Nota Bene. On est en train de discuter des revenus des députés et des sénateurs. De combien ils gagnent, tout ça, tout ça. Ton stream, c'est un peu pareil, on te pose des questions parfois hors sujet, t'es un peu un agent d'accueil. Ouais, je peux rien faire si vous avez un évier bouché, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis désolé. C'est pas la compétence du streamer, d'accord? Est-ce qu'ils ont les taxes salariales sur leurs enveloppes? Oui. L'indemnité est soumise à cotisation. Les salaires des collaborateurs est soumis à cotisation, comme tous les salaires. Donc oui. Tu cotises pas à la retraite, je crois. Ah si, 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 les députés, les sénateurs cotisent pour leur retraite. Il y a une caisse de retraite autonome de l'Assemblée nationale, une caisse de retraite du Sénat. D'ailleurs, il y a une époque, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a une époque où la caisse de retraite du Sénat était une des plus bénéficiaires de France. Il y avait plein de pognon dedans. Et la raison à ça, c'est que les sénateurs, à l'époque, bah, ils étaient sénateurs pendant très longtemps. Donc, ils cotisaient longtemps dans la caisse. Ils cotisaient avec un très, très fort taux de cotisation. Bien chargé, le salaire. Le revenu, pardon. Et souvent, ils mouraient avant de... ils mouraient avant de pouvoir toucher une retraite. En fait, ils mouraient en scène, comme on dit. Et du coup, bah, la caisse, elle avait plein de fric. Elle avait plein de cotisations. Et des cotisations importantes, en plus. Mais elle n'avait pas beaucoup de retraités à payer. Lesquels touchent leurs indemnités à vie, le président, le premier ministre, puis qui? Personne. Il n'existe pas d'indemnité à vie. Voilà, ça n'existe pas. C'est une légende urbaine qui circule sur Internet, comme quoi les anciens ministres auraient des avantages à vie, etc. Non. Les ministres, lorsqu'ils ne sont plus ministres, ils touchent 3 mois d'indemnité, et puis c'est terminé. Le président, alors le président n'a pas d'indemnité d'ancien président, ça n'existe pas. En revanche, il est membre de droit du Conseil constitutionnel, et à ce titre, je crois qu'il peut toucher une indemnité de membre du Conseil constitutionnel. J'utilise du conditionnel parce que je ne suis pas sûr que les présidents qui décident de ne pas siéger touchent quand même l'indemnité. Je ne suis pas persuadé, je crois pas. Ministre, c'est pas une super situation en vrai. Mais non, mais ministre, c'est... Enfin, moi, je me souviens, Axelle Lemaire, qui était ministre du numérique, c'est elle qui a fait voter la loi République numérique. Axelle Lemaire, j'ai pris un café avec elle, genre 1 an après son départ du gouvernement. Et je lui demandais comment tu vas, enfin, comment ça se passe et tout, raconte-moi, tout roule pour toi et tout. Et en gros, elle m'a expliqué qu'après avoir été ministre, eh ben, elle s'est retrouvée le bec dans l'eau, sans boulot, et il lui fallait trouver un taf. Donc elle a envoyé des CV, en fait. Parce que, elle a 3 enfants, un loyer à payer. C'est pas... Il n'y a pas du pognon qui tombe du ciel. Bah non, en fait, je suis plus ministre, c'est terminé. Voilà. Donc, bah, je vais trouver du travail. C'est ce qu'a fait Cécile Duflot aussi. Cécile Duflot, elle a été embauchée à Oxfam en postulant à une offre. Elle a littéralement envoyé son CV, sa lettre de motive. Parce qu'un pote lui avait dit, au fait, il y a Oxfam qui cherche une directrice générale, machin. Quoi. Donc, ministre, c'est une bonne situation financière quand t'es dedans, mais quand t'en sors, c'est pourri. Bah, non, c'est pas quand t'en sors, c'est pourri. C'est quand t'en sors. Si t'as pas mis d'argent de côté, si t'es dans la merde, si t'as pas un petit bas de laine, etc., t'es comme tous les Français qui bah, se retrouvent sans boulot et bah, faut trouver du boulot. Enfin, on y va là. On avance. Tu penses pas que la démocratie libérale, c'est un théâtre qui change rien? Non. Je suis pas français, je supporte aucun parti politique. Moi non plus. Voilà. Y a pas besoin de soutenir un parti politique pour vivre en démocratie, pour se sentir bien en démocratie. Les sénateurs le sont à vie? Non! Ah non, 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 sénateur, c'est 6 ans. Sénateur, c'est un mandat de 6 ans. Et ensuite, il faut se représenter pour être réélu. Est-ce que tu as le droit au chômage quand tu étais ministre? Oui, tu cotises au chômage. Bah, si tu as tes droits qui sont ouverts, a priori, tu peux faire une demande d'indemnité chômage, ouais, je suppose. Oui. Les sénateurs ont une retraite à vie, par contre. Non, 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 non. Les sénateurs n'ont pas une retraite à vie. C'est faux. Les sénateurs cotisent à la retraite et s'ils remplissent les conditions, ils peuvent faire valoir leur droit à la retraite, comme tous les Français. Qui a une retraite à vie? Personne, personne. Je vous jure, je sais que ça circule beaucoup sur Internet, cette espèce de légende urbaine, comme quoi les anciens ministres se gaveraient de pognon, auraient une retraite à vie, etc. Non, pas du tout. Ils ont des indemnités, ils ont 3 mois d'indemnité au moment de leur départ pour les aider à pas se retrouver dans la mer du jour au lendemain. Ils ont cotisé pendant la période pendant laquelle ils ont été ministres. Et s'ils ont l'âge de la retraite et qu'ils ont suffisamment cotisé, alors ils peuvent faire valoir leur droit à la retraite comme tous les Français et toucher leur pension de retraite. Les anciens présidents n'ont pas d'indemnité à vie? Non. Les anciens présidents n'ont pas d'indemnité à vie. Ils ont des frais qui sont pris en charge par l'État, notamment des frais de secrétariat, parce que les anciens présidents de la République sont très sollicités, notamment pour des représentations, pour des commémorations, ils reçoivent beaucoup de courriers, etc. Donc pour accompagner leur activité de président de la République honoraire, on va le dire comme ça, ils bénéficient de crédits qui leur permettent d'avoir un secrétariat. Ils ont par ailleurs, j'allais dire souvent, mais en fait c'est tout le temps, une protection rapprochée des services de la police chargés de la protection des hautes personnalités. Pas pour leur faire plaisir. D'ailleurs, c'est pas, faut pas croire que c'est un avantage. Hein. Vraiment, avoir un flic qui t'accompagne partout. C'est pas marrant en fait. Donc c'est pas un avantage, c'est un truc qui est là pour garantir leur sécurité puisque ce sont des personnalités exposées. En ayant cotisé un bout dans une caisse classique, un bout dans une caisse type Assemblée nationale ou le Sénat, comment ça se passe au moment du déclenchement de leur retraite? Je sais pas. Je sais pas, c'est un enfer. Alors ça s'appelle le calcul des droits à la retraite. Mesdames et messieurs, c'est une science maîtrisée par peu de personnes. C'est très complexe. Moi-même, d'ailleurs, c'est ma situation, hein, parce que j'ai cotisé à la caisse de retraite de la mairie de Paris, qui est une caisse autonome. J'ai cotisé à la caisse des retraites de l'État quand j'étais collaborateur au ministère. J'ai cotisé au régime social des indépendants. Aujourd'hui, je ne sais même pas où je cotise. Le jour où je vais arriver à la retraite, putain, pour calculer mes droits, il va falloir appliquer des taux sur sur des montants de cotisation et tout, ça va être un délire. Je ne sais pas comment on calcule. Honnêtement, il y a des règles, hein, ça s'appelle la sécurité sociale, c'est organisé, tout ça est. Tout ça est très bien organisé. Mes respects à toutes les personnes qui bossent à la sécurité sociale et particulièrement à l'assurance retraite, notamment la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Courage à vous. On pourrait faire un système unique, genre un système à points. Toi, tu cherches les problèmes, toi. Les organismes de retraite se transfèrent les infos. Normalement, ça se fait automatiquement avec la CARSAT. Ouais, la CARSAT, elle sert à ça. Mais ça n'empêche pas que c'est complexe à calculer. Tout ce que je voulais dire, c'est que c'était complexe à calculer. Mais tu as raison de dire que tout ça est prévu, organisé. Rassurez-vous, la Sécurité sociale n'a pas attendu le streamer Jean Massier pour se rendre compte que il allait falloir trouver une règle de calcul de tout ce merdier. Si t'es un travailleur non salarié, tu cotises au régime des indépendants auprès de l'URSSAF. Bah, ça doit être ça, ouais. Oui, ça doit être ça. Mais j'en sais rien, j'ai pas envie de m'en occuper. Je verrai ça quand j'aurai 67 ans et que j'irai au guichet comme ça. Ah, maintenant, il n'y aura plus de guichet physique. Putain, ce sera une intelligence artificielle. Bon, je demanderai à l'intelligence artificielle, bonjour, je peux toucher une retraite, s'il vous plaît? Bonjour. Qu'avez-vous fait au cours de votre carrière? Alors, c'est un peu compliqué. Mais j'ai cotisé des trucs, hein. Alors, je sais plus où, j'ai pas les papiers, mais. Cette conversation me donne de l'urticaire. Quand un député cumule avec maire, c'est interdit. Il n'y a pas de cumul député-maire, c'est terminé, il n'y en a plus. C'est fini, depuis 10 ans. Mon rêve, c'est de générer ma propre retraite, ne pas attendre quoi que ce soit de l'État. Merci Skybreather. Alors assure-toi, d'une part, c'est pas l'État, c'est la sécurité sociale, si ça peut t'aider. Et d'autre part, n'hésite pas à réaliser ton rêve. Ça s'appelle un plan épargne retraite, ce dont tu parles. Ça existe, c'est libre, c'est ouvert, c'est disponible. Fonce, fonce. Voilà. T'as une autre technique, alors, elle est un peu 19e siècle, mais ça consiste à mettre des billets comme ça sous le matelas de ton lit. Tous les mois, tu mets des petits billets comme ça. Tu cotises pour toi-même. Et à la fin de ta carrière, tu prends le gros paquet de fric comme ça, et hop, ça fait ta retraite. Ça s'appelle la capitalisation. C'est pas un très bon rendement, le matelas. Je suis pas conseiller en placement financier, mais le rendement est pas ouf. Mais bon, c'est ton argent. Même s'il est à mémoire de forme. Il est même négatif parce qu'il y a de l'inflation. Oui, en plus, t'as raison, tu perds de l'argent. Tu perds de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Mais bon, faites ce que vous voulez. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Impossible vu qu'on redistribue tout à l'État-providence. Ah mais si, 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 si. Tu peux ouvrir un plan épargne retraite, hein. Vas-y, fonce. Enfin, me demande pas de t'en conseiller un parce que j'y connais rien, mais n'hésite pas à pousser la porte du Crédit Agricole d'à côté de chez toi et leur dire bonjour, je voudrais un plan épargne retraite pour ma retraite. Voilà. Question sérieuse, ça paye mieux Twitch ou assistant parlementaire? Assistant parlementaire. En plus, tu peux défiscaliser avec le PER. Oui, c'est vrai en plus. Comment on sait si c'est la mairie qui doit refaire une route? Bah, si c'est la voirie de la commune, c'est la compétence municipale. Si c'est une route départementale, c'est la compétence du département. Non, je sais pas, je me suis jamais occupé de voirie. Moi, j'ai fait les affaires scolaires. C'est quoi le plus rigolo, Twitch ou assistant? Twitch, c'est vachement plus marrant. Non, mais on rigole, on rigole. On gagne pas d'argent, mais on se marre. On rigole. Ça dépend de qui a la propriété. Oui, ça dépend de qui a la propriété. Et on vous voit venir les propriétaires. Les propriétaires qui demandent à ce que la mairie refasse le bitume de leur parcelle privée. On vous connaît, on vous connaît. Faites semblant de pas savoir. Ah bon, ah c'est privé. Ah bah je croyais que c'était la commune. Non, ça n'a jamais été la privée. Ça n'a jamais été la commune. C'est l'allée de ta maison. C'est ton allée. Tu la refais à tes frais. Ça maintenant. Oh mais ça va, ça vous coûte quoi? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Tu te démerdes. Oh. Par contre, si tu oses mettre un pied dessus, ils vont bien te rappeler que c'est privé.
Oui, absolument.
Non, mais alors moi, à Paris, je suis désolé, je vous parle de Paris, parce que j'ai bossé à la mairie de Paris, mais à Paris, je me souviens qu'il y a les restaurateurs. J'adore les restaurateurs parisiens, quel bonheur. Les restaurateurs qui, vous savez, ils ont une terrasse. Ils ont une terrasse devant chez eux, qui est délimitée par la mairie, avec un espace où ils peuvent mettre des tables et des chaises, etc. Et il y a des restaurateurs qui décident de fermer leur terrasse. Notamment pour l'hiver. Donc, ils font des terrasses fermées. Comme ça, ils avancent. La devanture de leur restaurant avance d'un mètre, 1,20 m, sur le trottoir. Et du coup, donc, ils font ça pour l'hiver. Et l'année suivante, ils vont à la mairie. Ils disent « On aimerait bien avoir une terrasse ». Comment ça, on aimerait bien avoir une terrasse? Bah ouais, parce que là, c'est tout fermé, etc. Ce serait plus sympa, on pourrait mettre quelques tables devant. Mais vous avez déjà une terrasse. Vous avez décidé de la fermer, cette terrasse. Mais c'est une terrasse. On va pas vous en donner une deuxième, hein. Bah... Ils payent plus le loyer. Non, mais par contre, j'ai entendu parler, ça c'est une histoire vraie, j'ai entendu parler de restaurateurs qui vendent leur restaurant à un nouveau propriétaire, et le nouveau propriétaire, après la vente, découvre qu'une bonne partie du restaurant, en fait, c'est une terrasse, et qu'il n'avait pas le droit de la vendre. Le mec s'est fait du fric, le mec s'est rajouté des mètres carrés, parce qu'il l'a fermé, donc il a estimé que c'était à lui. Mais en fait, non. Donc le problème, c'est que le deuxième restaurateur, il s'est fait arnaquer, il a perdu du pognon, il a acheté des mètres carrés et tout, donc du coup, il estime lui aussi que ça lui appartient. Donc c'est compliqué quand t'es la mairie d'aller expliquer au restaurateur, en fait, ça t'appartient pas. Bah oui, mais je l'ai payé. Bah ça, je suis désolé, fallait pas. C'est le notaire qui a merdé. Ouais, sans doute. C'est étonnant que fermer un espace public, en l'occurrence la voirie, se soit autorisé. Je suis pas sûr que ce soit autorisé. Je suis pas un spécialiste de ces dossiers-là, parce qu'en l'occurrence, c'était le collègue avec qui je partageais mon bureau qui s'occupait de ça. Et je suis pas sûr que ce soit autorisé de fermer les terrasses et de construire des extensions de restaurants sur le trottoir. Donc il y a une espèce de tolérance bizarre, une espèce de truc où évidemment la mairie n'a pas envie de s'engueuler avec les restaurateurs, parce que ça reste des gens importants à avoir dans la poche plutôt qu'autre chose. Donc c'est toujours compliqué, hein. C'est pas... Voilà. C'est autorisé où les mairies ferment les yeux. Je crois que les mairies ferment les yeux. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Les mairies ferment les yeux. Alors je crois que depuis quelques années, en l'occurrence, je parle que pour Paris, je connais pas le reste. Je crois que depuis quelques années, la mairie de Paris a essayé un peu de rationaliser tout ce merdier, d'objectiver les demandes. Il faut déposer des demandes à la mairie et tout. Je sais pas très bien comment ça fonctionne maintenant. Faut se mettre à la place des élus aussi, les mairies ne veulent pas s'engager dans des démarches longues et peut-être chères au tribunal. Bah, non seulement longues et chères, mais aussi où tu te mets à dos des commerçants, ce qui n'est jamais une très très bonne idée quand tu fais de la politique locale. C'est... Pardon, hein, mais on parle de rapport de force, on parle de popularité, on parle de... Voilà, t'as pas envie de te fighter avec l'association des commerçants de ta commune. Donc, t'essayes de trouver des solutions plus calmes, plutôt que d'envoyer directement la police, saisir la justice, etc. L'emprise sur les trottoirs par endroit qui est laissée est aberrante parfois. Je me suis déjà pris la tête à Toulouse parce qu'on ne pouvait plus utiliser le trottoir en tant que piéton. Bah, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, enfin, encore une fois, je ne suis pas maire, je ne suis pas élu local, mais je me dis que si un restaurateur ou un bar fait une emprise sur le trottoir, tant qu'il n'empêche pas de circuler les fauteuils roulants et les poussettes, on peut se dire que ce n'est pas très grave. Si par contre ça commence à vraiment devenir n'importe quoi, il rajoute des tables, il rajoute des pots de fleurs, là tu fais non frère, juste non en fait. Là on peut juste plus marcher, c'est pas voilà. Dans ma commune, il y a un panneau voisin vigilant. C'est flippant car je ne sais pas ce que ça signifie et les infos en ligne ne me sont pas claires. Quelles sont leurs véritables prérogatives? En un mot, aucune. Voisin Vigilant est une association créée par des propriétaires qui ont voulu créer des logiques de sécurité et de protection mutuelle des voisins contre les cambriolages. Il y a des articles de journaux qui ont montré qu'il y avait aussi des dérives racistes. Voilà, comme ça, pour votre information complète. Donc non, les panneaux voisins vigilants ne servent qu'à effrayer les éventuels cambrioleurs en leur disant, attention, dans le voisinage, on surveille. Voilà, ça sert qu'à ça. C'est exactement comme les autocollants alarmes que tu mets sur ta porte de chez toi. Alors même que t'as pas d'alarme chez toi, c'est juste un signal que c'est ça d'envoyer au cambrioleur en disant pas cette porte-là, frère. Voilà. Ou chien méchant. Voilà, chien méchant. Pareil, le panneau chien méchant. Alors que t'as un chihuahua. Arrête, arrête, c'est chiant. Non, mais arrête. Bon bah voilà, c'est un espèce de truc. Donc, voisin vigilant, c'est à ça que ça sert. Donc c'est des panneaux qui ne servent qu'à ça. L'entraide pour la sécurité, c'est pas négatif, je trouve. Enfin, comment dire? Comment dire? Non, c'est pas négatif. Personne peut être. Vous êtes contre l'entraide, vous? Vous êtes contre l'entraide? Voilà. Non, évidemment, personne n'est contre l'entraide. C'est juste que il y a un continuum flippant entre la simple solidarité entre voisins. Bienveillants les uns envers les autres, qui jettent un œil sur le pas de la porte du voisin pour vérifier que tout va bien et que sa porte n'a pas été fracturée. Et au bout du continuum, t'as le Ku Klux Klan qui fait des milices blanches, qui patrouille dans les rues. Ah, ce n'est que de l'entraide. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Donc évidemment, je te dirai jamais que l'entraide, c'est pas bien. Évidemment, je suis sympa avec mes voisins, j'aime bien mes voisins. On garde un œil sur la porte, sur le jardin, sur machin, le portail ouvert et tout. Enfin, on garde un œil, on est sympa, quoi. Mais disons que c'est ça, voilà, ça peut être une pente glissante, quoi. Quand l'entraide commence à être organisée, on peut se rapprocher assez vite d'une milice. Moi, je connais pas mes voisins et j'en ai rien à faire. Tu n'es pas candidat aux élections municipales, toi. Et c'est peut-être pas plus mal. C'est pas grave. Bah, voilà. dans les années 30 en Allemagne, les voisins étaient très vigilants. En France aussi, hein, en France aussi, hein. Lui, il vient pas aux AG de copro. C'est chiant, les AG de copro, putain. Ça dure une plombe à chaque fois. Y a ma voisine qui me dit qu'elle surveille mon jardin parce que avec tous ces migrants. Oh, putain, c'est mon ancienne gardienne d'immeuble. Un des derniers immeubles à avoir encore une gardienne et tout. Enfin, vraiment, voilà. Une dame, c'était une dame âgée. En plus, elle m'adorait. Elle était très gentille avec moi, mais elle était raciste. Mais à un point. Mais à un point. Elle trouvait moyen de s'engueuler avec tous les livreurs de pizza qui venaient. C'est vraiment. Enfin, mon interphone sonnait. C'était ma pizza. Je décroche le combiné. Je tendais l'oreille. J'entendais la voix de la gardienne qui était en train d'aboyer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là? Non, c'est pour moi. C'est pour moi. Laissez-le rentrer. Laissez-le. Non, non, c'est bon. Il est avec moi. Non, c'est bon. Il a encore commandé une pizza ananas, le sagouin. Qu'est-ce que vous faites avec une pizza à la main et un costume de livreur de pizza? Vous faites quoi comme métier? Oh, non, attendez. Alors, pour le coup, autre anecdote. Hein, mais toujours avec la même gardienne. Mais un jour, je suis chez moi. Jusque-là, cette anecdote commence très bien. Non, mais un jour, je suis chez moi et il y a quelqu'un qui sonne à ma porte. Et vraiment, j'attendais personne. Donc, j'ouvre et je tombe sur un jeune homme très sympa. Très souriant, un jeune homme qui me dit bonjour, je suis de la société de ramonage des cheminées. Est-ce que vous avez une cheminée? Et moi je lui réponds ah, non, non, moi j'ai pas de cheminée dans mon appartement. On est au dernier étage ici, je crois pas qu'il y ait de cheminée, mais vérifiez peut-être à l'étage du dessous. Je crois que mon voisin du dessous a une cheminée, je suis pas sûr, j'en savais rien. Enfin, bref, mais je suis super sympa avec lui. Enfin, bref, je ferme ma porte, tout va bien. Une heure plus tard, je me casse de chez moi, je croise ma gardienne dans le hall. Qui me fait, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? De qui? Le jeune homme là, celui qui est monté dans les étages, etc. Vous l'avez vu? Je lui dis, bah oui, le gars du ramonage. Mais elle me dit, il n'est pas du tout du ramonage. C'est un gars qu'on connaît dans le quartier avec les autres gardiennes, etc. On le connaît très bien, c'est un cambrioleur. Il vient faire du repérage. Il vient vérifier qui habite là, qui est là chez lui, etc. Et moi, comme un connard, j'avais été adorable avec lui. Je suis, ah, non, j'ai pas de cheminée. Vérifier les étages d'en dessous. Voilà. Putain. Bien fait pour moi. Allez voir mes voisins. Oui, allez voir mes voisins. Il a un super appart, le voisin du dessous. Le monde serait meilleur si tout le monde pensait comme toi, cela dit. Bah, je sais pas, je suis pas sûr. Non, on se ferait chier si tout le monde pensait comme moi. Oh non, non, vous imaginez la prise de tête? Non. D'ailleurs, c'est pas interdit le démarchage en porte-à-porte. Bah, le cambriolage aussi, c'est interdit, hein. C'est pas ça qui va arrêter les cambrioleurs. Non, je sais pas d'ailleurs. Une nation de constitutionnalistes au secours. Ah non, non, cauchemar. Ah non, cauchemar, cauchemar. Ah non, je veux pas. Imaginez, il y aurait que des juristes. Merci Ribaud dans la sauce pour ton raid. Bienvenue à tes viewers. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour le raid, c'est sympa. On était en train de parler de quoi ? On racontait des conneries. On racontait des conneries. On parlait des voisins vigilants. Très très belle association, voisins vigilants. On adore, on adore. Et avant ça. Salut Ribaud. Du ramonage dans Paris. Ah oui, le ramonage de cheminée dans Paris. Ouais, putain, la vache. Il est compliqué. Il est compliqué ce stream. Hein. Mais ceci est une FAQ politique. Hein. En principe, on est censé parler de politique, discuter des choses et des machins. On parlait de voisins vigilants et du Ku Klux Klan. C'est ça. Merci, Cavilonum. Merci, merci. Comme quoi, tout est politique. Ah non, mais tout est politique. Ah, moi, j'ai toujours dit, hein, tout est politique. Hein. Il y a des villages vigilants aussi avec une belle plaquette en dessous du nom du village. C'est dégueulasse. Putain. Vous vous souvenez des villes internet ? Ça existe encore, les villes internet ? Ou, parce que en dessous du panneau de la ville, il y a écrit village fleuri, évidemment. Village fleuri, 5 fleurs, évidemment. Et juste en dessous, ville internet. Et ah, c'était un label. Alors j'en parle au passé parce que je crois que ça a disparu. Mais c'était un espèce de label qui certifiait, je sais plus quoi, l'équipement de la ville en ligne téléphonique, la présence en ligne de la mairie sur un site internet. La DSL, oui, c'est ça. Merci Capsounet, merci beaucoup. Les villages fleuris et les villes internet, c'est surtout une licence à payer. C'est pas du tout gratuit pour la municipalité. Ah, ils doivent payer en plus. Moi, je croyais que c'était l'association des maires de France, tu vois, qui faisait une petite animation. Non, faut putain, faut non, c'est chiant. Alors, on va créer un label. On va créer un label Village Backseat. Village Backseat. ce sera payant, évidemment. Et il faudra organiser des débats citoyens chaque jeudi après la diffusion de Backseat dans le PMU du village. Non, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. On va tapisser la France de village Backseat. Pour revenir à la politique, c'est quoi le drama Macron, préfet du Pas-de-Calais? Je sais pas, j'ai pas suivi. Il s'est passé quoi? Il a viré le préfet? Il a lourdé un préfet, je sais pas, j'ai pas compris. C'est quoi les jumelages? C'est comme les jumelages avec les villages à l'autre bout du monde. Oui, absolument. Oui, parce qu'il a eu l'outrecuidance de le faire marcher sous la pluie. Quoi? Macron a dû marcher sous la pluie 500 mètres. Il a pas kiffé apparemment. C'est une info du Canard Enchaîné. Mais attendez, il a quand même pas viré le préfet pour ça. Bah c'est quand même... Virer un préfet, c'est pas une décision que tu prends tous les jours. Le préfet a été limogé hier. Mais c'est pour ça où il y avait des bails compliqués sur des dossiers complexes. En plus, préfet du Pas-de-Calais, c'est compliqué parce que tu dois gérer toute la question de la politique migratoire sur la côte avec l'Angleterre et tout. C'est un peu rock'n'roll quand même comme poste. Mais il devait y avoir des trucs quand même derrière parce que c'est... Il n'y a pas de trucs sous-jacents a priori. Mais c'est... c'est incroyable, cette histoire. J'en sais rien. J'essaye pas de trouver des excuses à Macron, mais... Virer un préfet parce que t'as dû marcher sous la pluie, c'est... c'est Louis XIV ou quoi, enfin, c'est... Marcher sous la pluie, mais... Ben, je veux dire, François Hollande, ça le gênait pas de marcher sous la pluie. Non, mais c'est incroyable. Ils l'ont changé de poste. Oui, bah tu vas pas laisser un préfet sans attribution, donc ils ont dû lui trouver un truc. C'est pas très difficile, mais ok. Ce serait à cause de la gestion de la manif des agriculteurs qui a obligé le président à marcher. Je trouve ça lunaire. Enfin, évidemment, c'est lunaire. Enfin, si c'est vrai, c'est très grave. Alors, on va dire ça, c'est la phrase des complotistes. Si c'est vrai, c'est très grave. Non, mais c'est limoger un préfet parce que t'as pris de la flotte, quoi, les gars. J'espère pour Macron, hein, qu'on va trouver dans pas longtemps des dossiers montrant qu'en fait, ça se passait très mal avec la préfecture du Pas-de-Calais pour un milliard de raisons, sur plein de dossiers, que le préfet était un naze ou je sais pas quoi. Laurent Touvet est nommé directeur général des étrangers de France. Savais même pas que ça existait, mais pourquoi pas? Je pense pas que c'était contre le préfet, mais que c'était plutôt pour caler un de ses potes comme nouveau préfet. Oui, mais ça c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est habituel plutôt. Mais en général, tu trouves des meilleures raisons de lourder un préfet. Ou alors c'est la rotation habituelle des postes de préfet, qui ne restent pas éternellement, évidemment, à leur poste. N'y avait plus de place au Conseil d'État? Oh, les préfets, ils vont pas au Conseil d'État, hein. C'est pas le même corps de fonctionnaires. La préfectorale, il reste au ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron a alors croisé la route d'agriculteurs en colère et a même dû marcher 500 mètres sous la pluie. Des manifestants ont d'ailleurs filmé la scène et l'ont diffusée sur les réseaux sociaux. L'Élysée n'a pas apprécié cet incident et a même assuré que la sécurité du président aurait pu être remise en cause à ce moment-là. Ouais, d'accord. Encore une fois, hein. Si effectivement Emmanuel Macron avait été pris à partie violemment, etc., on aurait pu en discuter sur le fait que la sécurité du président avait été compromise. Je sais pas. À la rigueur, tu mettais un blâme au préfet, pas la peine de le virer. Ouais, voilà, c'est ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire dans l'échelle de la sanction, là, on est quand même assez loin. Admettons, moi je veux bien admettre que le préfet et ses services ont mal organisé la visite du président de la République. Il y a eu un moment un peu chaud et un peu tendu où ça aurait pu mal finir si jamais il y avait eu un dégénéré dans la salle, etc. Donc, enfin, on peut imaginer effectivement qu'il y a eu un moment de. Moi, j'en ai fait des visites ministérielles, des visites d'État, etc. Il y a une bonne part d'imprévu. Hein. T'as beau tout baliser avant en réunion. Tu te rends compte que sur le terrain, tout peut se passer. Mais ouais, je sais pas, de là à lourder le préfet. C'est quand l'audition de Jean-Luc? Jean-Luc Mélenchon sera auditionné à l'Assemblée nationale ce samedi à 14h, je crois, dans le cadre de la commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et les islamistes. C'est pas exactement le titre de la commission d'enquête, mais je vous le vulgarise parce que c'est exactement ça le sujet. Et donc, on va diffuser en direct sur cette chaîne, évidemment, cette audition qu'on va suivre ensemble, commenter ensemble. Je voulais checker d'ailleurs. Prochaine séance. Non, ça, c'est dans l'hémicycle. Tous les agendas de l'Assemblée nationale. Mon Dieu, quel enfer. Je veux pas les séances publiques. Ouais. Donc ça, c'est jeudi, vendredi, samedi. À 14h, audition de Monsieur Jean-Luc Mélenchon. OK. Donc l'audition de Jean-Luc Mélenchon, c'est à 14h. Et donc, je vais prendre le stream à 13h. T'as regardé l'audition de Tondelier? Non, pas encore. Ah, il faut que je fasse ça demain, ouais. Le nom officiel, c'est Commission d'enquête sur les liens existants entre, entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Fin de citation. Bref, est-ce que les insoumis, c'est le Hamas? C'est ça la question. C'est ça la question. Le Hamas financé par la Russie. Il y a qui à la tête de la commission? La commission elle a été déclenchée par le droit de tirage des Républicains, Laurent Wauquiez. La composition de la com. J'ai pas la composition de la commission, mais je crois que le bureau de la commission est composé uniquement d'élus de droite, parce que les élus de gauche ont décidé de se barrer de ce sketch en disant ce sera sans nous, on va pas faire semblant. On va pas faire semblant, c'est votre truc là, c'est ce sera sans nous. À quand une commission d'enquête pour connaître les liens entre la Russie et les partis politiques? Et ben ça fera double ration de Jean-Luc Mélenchon auditionné à l'Assemblée, du coup. Bon, ce ne sera pas le seul. Penses-tu possible une suspension de l'accord Israël-Union européenne? J'ai du mal à imaginer que ce soit décidé par l'Union européenne. Que ce soit voté au Parlement européen, même, ça me paraît compliqué vu le poids du PPE. Je sais pas. D'autant que la Commission a d'ores et déjà suspendu certains pans de l'accord d'association, donc. C'est quoi une commission d'enquête? Pouvoir législatif ou judiciaire? Une commission d'enquête, c'est pas du pouvoir judiciaire, certainement pas. C'est en fait les prérogatives du Parlement. Le Parlement, il fait la loi, c'est son pouvoir législatif, mais il contrôle aussi l'action du gouvernement. Et le Parlement a la possibilité de mener des enquêtes sur des dossiers, sur des sujets sur lesquels il estime que c'est important d'enquêter, dans le but d'améliorer la législation. Il faut bien que vous compreniez, et je vous le rappellerai samedi, qu'une commission d'enquête, ça ne sert pas à établir des responsabilités et des culpabilités, et encore moins des peines. Ça, c'est la justice qui fait ça. Et heureusement, la justice est indépendante de l'Assemblée. La commission d'enquête se borne à établir d'éventuels dysfonctionnements dans nos services publics, par exemple, dans le but d'améliorer la loi pour résoudre le problème. Est-ce qu'une commission d'enquête peut entraîner des poursuites judiciaires? Absolument. Sur la base des travaux d'une commission d'enquête, on peut saisir le procureur de la République. Et cette fois-ci, on passe dans un versant judiciaire qui pourrait éventuellement donner lieu à un procès. Il y aura une instruction, etc. Mais procès, culpabilité, peine, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas le rôle de la commission d'enquête que de juger coupable ou pas, ou non coupable qui que ce soit. Quel est le mécanisme qui permet à un groupe de demander une commission d'enquête? Les commissions d'enquête à l'Assemblée nationale, on peut les créer sur demande d'une commission, sur demande d'un groupe, mais on a créé un mécanisme qui s'appelle le droit de tirage, qui permet à chaque groupe minoritaire de l'Assemblée nationale de pouvoir créer une commission d'enquête par an sur un sujet de son choix. Et c'est le groupe qui décide. L'année dernière, je me demande si c'était pas la France Insoumise qui avait déclenché la commission d'enquête Betarame. Peut-être pas. Peut-être pas. Et donc là, cette année, c'est les Républicains qui ont décidé d'utiliser leur droit de tirage pour créer leur commission d'enquête sur ce sujet. Réforme de l'audiovisuel. Ah, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison, je me souviens pas. J'ai l'esprit embrumé, mais t'as peut-être raison. C'était pas en début d'année, Betarame. Putain, c'est passé vite, hein. Vous vous rendez compte qu'au début de l'année, c'était encore Michel Barnier, le Premier ministre? Ensuite, très vite, ça a été Bayrou. Et quelle aventure, mes amis, quelle aventure! Et après le cornu, puis plus le cornu, puis re le cornu. Et il y aura peut-être une motion de censure avant Noël. Eh, l'année 2025, bonne ambiance, hein. Ça valait le coup d'être abonné à ma chaîne parce que, on en a vu des trucs, hein. Comment est décidé les personnes qui président les commissions d'enquête? C'est une élection par les membres de la commission. Plus la France change de Premier ministre, meilleures sont les sorties jeux vidéo de l'année. Ça, c'est une stat. Ça, c'est une stat. La commission des LR porte sur quoi? Sur Mélenchon. Et le terrorisme. C'est bien parce que plus j'avance, plus je simplifie. Mais au fond, c'est un peu ça l'idée. Dans la tête des LR, on en est là. Enfin, voilà. Est-ce que je peux refuser d'aller à une convocation d'une commission? La réponse est non. C'est un délit que de ne pas se présenter à la convocation d'une commission d'enquête parlementaire de la République. C'est obligatoire. N'est-ce pas, Pierre-Édouard Sterrin? C'est pas Colère qui a refusé d'y aller? Si, Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée, enfin l'ancien, a décidé, a refusé de se présenter devant une commission d'enquête au Sénat ou à l'Assemblée, je ne sais plus, en arguant du fait que, comme il est secrétaire général de la présidence de la République, il y a un conflit de pouvoir et on ne peut pas auditionner un secrétaire général de l'Élysée au Parlement. Le problème de cet argument d'Alexis Kohler, c'est qu'Alexis Kohler avait déjà accepté par le passé de comparaître devant une commission d'enquête. Faisant de cet argument un argument pour autant entendable, parce que moi je peux comprendre le conflit effectivement en termes de séparation des pouvoirs qu'il peut y avoir, et la trop grande facilité que tu peux avoir à attaquer l'Élysée indirectement via son secrétaire général. Merci Courtin. Mais ouais. On risque quoi si on n'y va pas? On risque. Alors c'était quoi déjà la peine encourue? C'était 2 ans de prison, 7 500 euros d'amende. Je sais plus exactement la peine encourue. Il fait quoi un secrétaire général? Le secrétaire général de l'Élysée, c'est un bonhomme très important qui travaille dans l'ombre du président de la République et qui est la plus haute fonction de l'Élysée après le président. Merci Super Emati. C'est la plus haute fonction de l'Élysée après le président de la République. C'est l'équivalent, si tu veux, d'un directeur d'administration centrale pour un président de la République. Voilà. On va dire ça comme ça. Le ministre de l'Intérieur, il a un directeur général de la Sécurité intérieure. Le ministre de l'Éducation nationale, il a un directeur général de l'enseignement scolaire. Le ministre de la Santé, il a un directeur général de la Santé. Le DGS, vous vous souvenez, le gel hydroalcoolique, les masques, tout ça. Le président de la République, il a un secrétaire général, qui est la clé de voûte de l'institution présidence de la République. Il est choisi comment? Il est choisi par le président de la République. Plus directeur de cabinet ministériel. Alors le cabinet, c'est encore autre chose. Le cabinet n'est pas tout à fait dans l'organigramme et dans l'architecture administrative de l'autorité. Le cabinet, il est dans l'animation de la du versant politique de la présidence de la République. Est-ce que le président peut être convoqué devant une commission d'enquête? Certainement pas. Certainement pas. Et dans tout ça, un secrétaire ministériel et sous-secrétaire, c'est quoi? Bah, au sein du gouvernement, tous les membres du gouvernement sont membres du gouvernement de la République. Et à ce titre, participe à la définition de la politique de la nation, etc. Mais il y a une hiérarchie au sein du gouvernement entre les ministres d'État, les ministres délégués, enfin les ministres de plein exercice, les ministres délégués, les secrétaires d'État, etc., etc. Alors ça dépend des architectures gouvernementales, on n'a pas toujours utilisé les mêmes mots. Maintenant, on parle plus de ministres délégués que de secrétaires d'État, alors que c'est grosso merdo la même chose. Est-ce qu'un ancien président peut être convoqué pour évoquer ses choix politiques lors de son mandat? Non. Il y a un principe d'irresponsabilité pénale, d'irresponsabilité politique du président de la République, qui ne peut en aucun cas se retrouver à devoir s'expliquer devant un Parlement, qui a la même légitimité que lui, c'est-à-dire le suffrage universel direct. Par ailleurs, les anciens présidents de la République sont membres du Conseil constitutionnel. Et il est hors de question que le Parlement fasse pression sur le Conseil constitutionnel, certainement pas. Ce serait bien que ça change, ça d'ailleurs, un jour. Ce serait bien que les anciens présidents de la République arrêtent d'être membres du Conseil constitutionnel. Tout le monde est d'accord avec ça. En plus, c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde est d'accord avec ça, hein. Macron est d'accord avec ça. Toute la gauche le réclame depuis des années. La droite aussi, ils ont dit qu'ils étaient pour. Un ancien président, il est membre combien de temps du Conseil constitutionnel? Il est membre à vie. Il est membre à vie et de droit. Mais il n'est pas obligé d'y siéger. Le président ne peut pas rentrer dans l'Assemblée nationale. Non, le président de la République n'a rien à faire à l'Assemblée nationale. Il n'y est pas invité et il n'a pas à s'y présenter. C'est Mélenchon qui empêche de faire sortir le président du Conseil constitutionnel? Non. Non. Pourquoi tu dis ça? Non, non, Mélenchon aussi, il est d'accord. À ma connaissance, Jean-Luc Mélenchon est favorable à ce que les anciens présidents de la République arrêtent de siéger au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'une condamnation définitive annule son droit à siéger, Sarko? Non. Non, non. Aucune condamnation ne peut empêcher un ancien président de la République de siéger au Conseil constitutionnel. Il est membre de droit. Si tout le monde est d'accord, pourquoi ça bouge pas? C'est à cause d'Alexandre Benalla. Et je rigole même pas. Je rigole même pas. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, en 2018, a proposé une réforme de la Constitution, dans laquelle il y avait plein de choses, dont la suppression des anciens présidents de la République du Conseil constitutionnel. Merci, The Cake Face. The Cake Face. Macron a proposé une réforme de la Constitution, réforme qui a été interrompue à cause de l'affaire Benalla. Et elle n'a jamais repris. Voilà. Donc, en 10 ans de pouvoir, Macron n'aura jamais modifié la Constitution. Ah, l'IVG, ouais, vous avez raison, l'IVG. Oh, je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Merci, Wally, pour les 5 subs offerts au chat. Merci pour les 5 subs offerts au chat. C'est très généreux. Non, 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 je suis mauvaise langue avec Macron. Pardon, Emmanuel, excuse-moi. J'ai été mauvaise langue. Oui, il y a bien eu une modification de la Constitution qui a rajouté le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et ça, c'est chouette. Sauf que l'IVG, c'est pas l'initiative de Macron, si. Si. Enfin. Ça va vous plaire. C'est une co-initiative de Macron et de la France insoumise, figurez-vous. C'est une proposition de loi qui avait été déposée par la France insoumise de mémoire, défendue par Mathilde Panot, et qui a été reprise par le gouvernement et par Aurore Berger. Les insoumis et les macronistes ont fait un compromis. Alors, je sais qu'il ne faut pas le dire trop fort parce que c'est très très mal vu, mais oui, les macronistes et les insoumis ont fait un compromis. Oui, les insoumis ont accepté de transiger sur leur position pour accepter un truc middle qui convient à tout le monde. Le répétez pas, le répétez pas. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est Mélanie Vogel au Sénat. Ouais, Mélanie Vogel qui portait le texte au Sénat. Tu concèdes quoi sur le sujet? Ce que voulaient les insoumis, de mémoire, c'était la rédaction de l'article, un peu différente, qui garantissait l'effectivité du droit à l'IVG. Mais le Sénat n'était pas chaud. Le Sénat n'était pas chaud pour des raisons juridiques et pour un risque d'insécurité juridique que ça pourrait faire peser sur des médecins. Et donc, à la fin, je me souviens très bien que Mathilde Panot, en conférence de presse, a dit que les insoumis retiraient leur amendement et se rangeaient à la solution des macronistes, qui était donc la rédaction actuelle dans la Constitution. Je ne sais plus exactement comment c'est écrit. Non, c'est pas ça. Merde, c'est à quel endroit? La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Ouais, c'est ça. C'est le mot liberté. C'était, je crois me souvenir que c'était le mot liberté qui devait être changé par le mot droit. Sauf que ça ouvrait un débat juridique sur l'effectivité du droit, le caractère opposable du droit ou pas, etc. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me souviens, t'as raison, Laure, c'était ça. Bref. Les insoumis ont fait un compromis et ça a permis d'inscrire l'IVG dans la Constitution et ça c'est chouette. Et je me souviens, on avait streamé le Congrès d'ailleurs, le Congrès qui avait voté la modification de la Constitution, où le Rassemblement national avait dit un truc du genre, toute façon on s'en fout, rien ne nous empêchera de limiter l'accès à l'IVG quand on sera au pouvoir. Voilà. C'était charmant. Et c'est passé crème? Bah auprès du chat, non, tu t'en doutes? La Constitution. Mais non, mais ça change rien. C'est ce que Donald Trump est en train de démontrer brillamment. C'est ironique. Aux États-Unis, c'est que t'as pas besoin de changer la Constitution pour la fouler aux pieds. Tu peux, par exemple, arrêter de financer les centres IVG. Tu touches pas au droit. T'as toujours le droit d'interrompre une grossesse. Par contre, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de financement, il n'y a plus de formation, il n'y a plus d'information à destination des femmes, il n'y a plus de sensibilisation, il n'y a plus de prévention. Voilà. Tu peux en avoir le droit, mais on t'en retire les moyens. Ouais, en gros, c'est ça. C'est le caractère effectif du droit. C'est pour ça que beaucoup d'assos féministes ne se réjouissaient pas du droit à l'IVG dans la Constitution, parce que rien ne garantit son accès pour toutes. Oui. Alors, les assos féministes ont quand même dit que c'était un pas en avant et que c'était bien que ce droit soit reconnu par la Constitution, mais elles ont alerté, et tu as raison, en disant un droit, c'est sympa, mais un droit effectif, c'est autre chose. Et il faut garantir l'effectivité de ce droit maintenant, notamment avec, en mettant les moyens. Donc, ouais. Ça veut dire quoi un droit effectif? Bah, un droit effectif, c'est un droit dont tu peux faire l'usage. Je sais pas si on te donne le droit de manger mais qu'on ne te donne pas à manger. Ah mais t'as le droit, hein? Ouais, mais il n'y a rien à bouffer. Ouais, mais t'as le droit. Bah voilà, ton droit n'est pas effectif parce que tu peux pas bouffer. C'est un peu caricatural, mais t'as l'idée. C'est un droit qui est effectivement protégé, auquel on peut avoir accès. Ouais, c'est ça. L'exercice est possible. Mais c'est comme. Tiens, c'est intéressant, on en avait déjà parlé, mais vous savez que les bureaux de vote aux États-Unis, dans les quartiers noirs, dans certains États, dans les quartiers noirs afro-américains, la file d'attente pour voter est beaucoup plus longue que dans les quartiers blancs. Et parfois, t'attends 2 heures, 3 heures sous le cagnard, en faisant la queue, avant d'avoir accès à l'urne. Parce que les organisateurs des élections font exprès de mettre beaucoup plus de bureaux de vote dans les quartiers blancs que dans les quartiers noirs, comme par hasard. Et bah ça, typiquement, c'est hyper intéressant, mais c'est une limitation du droit de vote. Alors, ils peuvent toujours se planquer en disant « Ah, mais on limite rien du tout, regardez, ils ont le droit de vote !» Mais l'effectivité de ce droit montre qu'en fait, c'est vachement plus difficile de voter quand on est noir que quand on est blanc. Donc c'est un exemple, c'est un énième exemple de dévoiement de la démocratie avec des arguments démocratiques. Il y a du vote par correspondance aussi. Dans certains États des États-Unis, il y a le vote par correspondance qui existe, ouais. D'ailleurs, Donald Trump a dit tout le mal qu'il pensait du vote par correspondance, alors qu'il a voté la plupart du temps, tout au long de sa vie, par correspondance. Question théorique, est-ce qu'en France le pouvoir présidentiel est plus important qu'aux USA par exemple? Pas comparable. Pas comparable. Je suis désolé. On peut pas faire du droit comparé comme ça, sorti du chapeau. La France et les États-Unis d'Amérique sont des pays radicalement différents dans leur organisation, dans leur constitution, dans leur modèle politique. Je sais pas. T'as fait du droit comparé, toi, non? Ouais, j'ai fait un master 1 de droit comparé. Je suis maître en droit comparé à l'école normale supérieure. Et je suis donc bien placé pour vous dire qu'on ne peut pas comparer. En tout cas, l'exercice intellectuel du droit comparé est un exercice qui demande des précautions très importantes. Faut nous dire qu'on doit t'appeler maître. Ouais, appelez-moi maître, tiens, appelez-moi maître. C'est vrai ça. Qu'est-ce qui vous autorise à me tutoyer? On va pas élever les cochons ensemble, hein? Donc appelez-moi maître.
Ouais, je préfère, ouais.
Par contre, la France est souvent décrite comme un régime semi-parlementaire, c'est plutôt hyper-présidentiel.
Non, ça reste un régime parlementaire, rationalisé certes, avec un système politique présidentialisé, mais c'est bien le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.
La preuve aujourd'hui.
Ah bah ça. Oh là, ce budget 2026. Mon Dieu, mes aïeux. Ce budget 2026, quel enfer.
Est-ce que ce serait pas bien de faire une sixième république? Après toutes les tartines de mise à jour de la cinquième à prix, ce serait pas mal de tout remettre à plat. Ah oui, je suis d'accord. Ce serait chouette. Mais vouloir une sixième république, c'est la partie facile. Première étape, mais étape vraiment la plus facile. Après, il faut qu'on discute. Va falloir qu'on discute. Ce budget est une comédie, je suis persuadé que tous les acteurs à l'Assemblée nationale savent comment ça va finir depuis le départ. Ça rend les choses encore plus grotesques de ne pas avoir censuré le cornu. T'en as discuté avec qui comme député? Parce que moi j'en ai discuté avec des députés. Personne ne savait depuis le départ comment les débats prendraient. Ou ne prendraient pas d'ailleurs. La preuve, ils n'ont pas pris. Tout dépend de ce qu'on met dans la Sixième République.
Exactement.
Et comme je vous l'ai déjà dit, et je vous le redirai toujours, si vous voulez faire l'exercice intellectuel d'imaginer une nouvelle République, et je vous invite à le faire, c'est vachement bien de faire ça quand on est citoyen, ne faites pas l'erreur de vous projeter dans un monde dans lequel vous êtes au pouvoir. C'est trop facile. Imaginez-vous dans l'opposition, minoritaire. Vous avez perdu les élections. Comment vous voulez qu'elle fonctionne, cette République, maintenant que vous êtes minoritaire? Quel pouvoir vous voulez avoir? Quel contre-pouvoir on imagine? Quelles limitations? Etc. C'est ça le vrai travail intellectuel, il commence à ce moment-là. Je rentre d'une visite de l'Assemblée cet après-midi, c'était très sympa. Ah ouais? Trop cool. Attends, tu me demandes de réfléchir. Qui a parlé d'élection? Ah mais j'ai pas parlé d'élection. Pas forcément parlé d'élection, tu peux te retrouver dans l'opposition d'une dictature. Hein. C'est gratuit de visiter l'Assemblée? Oui. Tes streams ont donné envie à moi et mon père de visiter l'Assemblée, faut qu'on trouve une date. Ah, oh, trop bien! Bah ouais, allez-y, carrément. faut faire les deux parce que si je suis dans l'opposition, je veux pouvoir tout bloquer et avoir plein de pouvoir. Mais si je suis au pouvoir, ça me fait chier que les oppositions bloquent tout.
Exactement. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, parce que vous me connaissez, je suis espiègle et j'ai un humour de merde, mais je meurs d'envie que la France insoumise soit au pouvoir. Juste pour voir comment ils réagiront à l'obstruction parlementaire du Rassemblement national. Oh, oh allez, ça va, c'est marrant. Ça me fait marrer en tout cas. Ça va être rigolo. Ouais, ça va être rigolo. Maître Jean est taquin. Bah oui. Mais allons-y, hein. On a eu un aperçu durant leur niche parlementaire. Tu as raison. Tu as raison. Moins marrant, le RN au pouvoir et la gauche qui ne bloque rien parce que le pouvoir passe tout en force. Il est badant ton message parce qu'il est réaliste. C'est horrible, hein? Mais oui, t'as raison, c'est moins marrant. Là, on rigole beaucoup moins, mais ça a des chances de se produire en fait. Tu penses sincèrement que LFI pourrait gagner les prochaines présidentielles législatives? Je pense que c'est un scénario possible, parmi d'autres, mais c'est un scénario possible. C'est peut-être pas le plus probable, à date. À date. Mais oui, c'est un scénario possible. Quand tu dis passer en force, tu penses à quoi? Une majorité relative du RN, mais pas de majorité pour censurer le gouvernement. J'ai du mal à comprendre le passage en force. Non, passage en force, ce serait des 49-3 à répétition, mais effectivement, si le Rassemblement national a une majorité absolue, ils n'ont pas besoin de 49-3. 49-3 n'est pas très utile quand tu as une majorité absolue, sauf quand tu as des frondeurs. Coucou François Hollande. Mais il n'y a pas besoin de passage en force. Hein. Quand tu es majoritaire, hein, tu as le pouvoir. Il n'y a pas de. Bon, tu votes, hein. Tu lèves la main, tu votes, merci, au revoir. La gauche, c'est 30% à tout casser en France, non, en comptant le PS. La gauche en France, sur la base des résultats aux élections, et ça dépend de quelles élections on parle, elle est entre 30 et 35%. Elle a 35% les bons jours. Et encore, t'as raison, il faudrait qu'on définisse ce qu'on appelle la gauche. Est-ce que c'est impossible de gagner avec 30%? Bah, non. Regardez Emmanuel Macron en 2017 qui a gagné alors qu'il ne faisait pas 50%. Il suffit de faire 20% pour être au second tour. À peu près. 20-25. Et ensuite, tu as un vote de barrage qui peut se mettre en place et te faire gagner. Moi, je pense que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, peut arriver au second tour. Et qu'ensuite, s'il réussit à récolter suffisamment de voix d'un hypothétique barrage républicain, alors il peut être élu président de la République. Est-ce qu'il gagnera les élections législatives dans la foulée? C'est pas sûr, du tout. Mais c'est possible.
Déjà, rien que le fait de pouvoir être président avec 25% au premier tour, c'est un problème. Bah non. Enfin, je veux dire, ce qui compte, c'est le second tour. C'est là que t'es élu, c'est pas au premier. Si t'as une dispersion des voix, c'est ce qu'on voit aux élections législatives, au demeurant. Jusqu'à ce que Mélenchon gagne avec 25% des votes. Toi aussi, t'es taquin. Toi aussi, toi aussi, t'es taquin. Non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça, c'est mon humour. En ce moment, Europe 1 fait une campagne pour un barrage républicain anti-LFI. Ils incitent à voter RN plutôt que LFI. Ouais. C'est pas étonnant, hein? C'est pas étonnant. Mais ça, faut s'y préparer, hein. Enfin, je veux dire, faut se préparer à ce que l'ensemble des médias Bolloré fassent activement campagne contre la France insoumise et appellent évidemment à faire barrage contre la France insoumise, quelles que soient les circonstances. Et a fortiori si Marine Le Pen est au second tour, face à Jean-Luc Mélenchon. Du coup, si la gauche est à 35% les bons jours, ça veut dire que le RN fait autant que toute la gauche réunie. Ben oui. Oui. C'est le monde dans lequel on vit, c'est celui-là. C'est cette réalité-là et c'est ce rapport de force-là. Après, c'est le principe de la gauche d'être plurielle. Oui, mais là, on ne parle pas du pluralisme à gauche. Là, on parle de la force totale de la gauche cumulée. Et ce n'est pas le principe de la gauche que d'être à 35%. 45-50, c'est mieux. La droite aussi, elle est plurielle en plus. Et en plus, la droite a toujours été plurielle, et oui, bien sûr, évidemment. Et ben, c'est pas propre à la gauche du tout. Est-ce qu'il vaut mieux un président LFI et une assemblée RN? Ou l'inverse. C'est horrible le choix. Non, l'inverse, l'inverse. On est un régime parlementaire, c'est le Parlement qui détermine la couleur du gouvernement et de la politique qui est menée dans le pays. Le RN fait 35% que dans les sondages. Aux européennes aussi, hein. Et aux législatives. Je veux pas ruiner l'ambiance, mais on dirait que le président n'a pas de pouvoir à t'écouter sérieux. Ah bah je te confirme qu'en cohabitation, puisque c'est ce dont on parle, le président n'a pas de pouvoir. La Ve République n'est un régime présidentiel qu'à partir du moment où le président de la République a une majorité absolue de députés qui le soutiennent. Dès l'instant où le président de la République perd les élections législatives, il ne sert plus à rien. Il inaugure les chrysanthèmes. Il a plein de pouvoirs discrétionnaires, même avec une assemblée opposée. Genre quoi? Les pouvoirs de nomination? Le contre-sein du Premier ministre? Donc aujourd'hui, Macron n'a pas de pouvoir, d'après toi? Ben bien sûr que non. Vous avez vu l'état de l'Assemblée nationale? Vous avez vu l'incapacité du pays à avoir un budget? Il n'est pas dénué d'influence. Mais... Enfin, je veux dire, Vous vous rendez quand même compte que ça n'a rien à voir avec son premier mandat. Ce qu'on est en train de vivre là actuellement. À l'époque, il avait une majorité pléthorique. Hein. Il n'avait aucun problème pour faire passer ses lois. Là, il n'arrive même pas à faire passer un fucking budget. Il dit quasiment plus rien depuis les dernières législatives. Ben non, il dit plus rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Le seul truc qu'il peut annoncer, c'est l'interdiction du téléphone portable au lycée. Putain, on en est là. Il fait de la politique internationale. Oui, il fait de la politique internationale, pour le coup, c'est son domaine. Domaine réservé, comme on dit, même si ça n'existe pas vraiment. Il a quand même un gouvernement qui est de la même couleur politique que lui, ce qui l'arrange bien pour les négociations internationales. Mais pour tout ce qui est projet de loi et réforme, pas grand-chose, hein. Dans ce genre de situation, le président n'aurait pas dû pouvoir rester au pouvoir. Donc Mitterrand aurait dû démissionner en 86. T'es pas le seul à dire ça, hein. Il y avait Jean-Marie Le Pen aussi qui le disait à l'époque. Pardon. Ouais, Jacques Chirac aurait dû démissionner en 97. Et Jean-Luc Mélenchon devra démissionner s'il perd les élections législatives. Vous êtes prêt à la signer, celle-là? C'est votre truc, hein. C'est pas ma position, mais si c'est la vôtre, prenez l'engagement. Mitterrand, il a gagné en 88, du moment que la droite avait les pleins pouvoirs en 86. Pas tout à fait les pleins pouvoirs, parce qu'ils n'avaient pas l'Élysée, mais oui, bien sûr, Mitterrand a gagné en 88. Il a dissous, et il a remporté les élections législatives dans la foulée. La différence, c'est qu'il y avait une majorité à l'Assemblée quand même pour les deux dernières cohabitations. Absolument. Absolument. Il y a toujours eu une majorité à l'Assemblée nationale, exception faite de la période 88-93, avec Michel Rocard, mais qui était un peu différente, parce qu'il y avait quand même une majorité relative du Parti Socialiste, très très forte. C'est que depuis 2022-2024, surtout depuis 2024, qu'on n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale.
Jean-Luc Mélenchon pourrait appeler à une constituante dès qu'il serait élu? Non. Enfin, il pourrait l'appeler de ses voeux. Il pourrait le proposer, mais il ne pourrait pas la déclencher. Ça, il faudra probablement passer par un projet de loi du gouvernement. D'un gouvernement d'opposition, donc. Ah non, si il remporte les élections législatives. Un retour de DSK serait envisageable? Non. Non, non, DSK, il a quitté la politique définitivement. Déjà que lui a pas envie, mais personne d'autre n'a envie non plus, tu vois. C'est à un moment. Bon. JLM pourra faire passer une constituante en 49-3. Putain. Si Jean-Luc Mélenchon utilise le 49-3, j'espère que vous allez mourir d'ironie dans le chat. Je vous fais confiance, hein, ce jour-là. Vous spammez les lules dans le chat. Je sens qu'il y en a qui vont pas rigoler. Ça va être très premier degré, hein, mais je n'ai pas eu le problème. Ah non, mais c'est génial. Non, mais allons-y, allons-y. Moi, ça me va. Petite question concernant l'invitation de Jean-Luc Mélenchon à la commission d'enquête parlementaire. N'y a-t-il pas un potentiel qu'il en fasse une tribune politique? Ah bah si. Ah bah puis alors le connaissant, le connaissant, croit pas qu'il va rater l'occasion de briller dans cette audition. Ah si 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 si. Ah non non mais attendez. Ce qu'on va voir samedi, à mon avis, ça va être du grand spectacle, hein. Il va se gêner. Non mais voilà, il va se gêner. Non, tu crois quoi? Tu lui donnes un micro? Tu lui donnes un micro? Tu lui mets des mecs de droite en face? Et tu veux pas qu'il fasse une tribune politique? Alors là, bouge pas, accrochez vos ceintures, les enfants. Attention, ça va décoller. À la base, le 49-3 a été pensé pour aller contre les députés qui iraient contre le peuple. Quoi? Tu l'as lu ça ou tu l'as inventé? Donc si c'est pour ça, je veux bien du 49-3. D'accord. Donc il y a comme qui dirait le bon et le mauvais 49-3. Le bon 49-3, c'est celui que j'utilise moi pour appliquer mes idées qui sont les bonnes. Et le mauvais 49-3, c'est celui que le camp d'en face utilise pour imposer de mauvaises idées contre l'intérêt général. Ok. Oui, mais c'est pas pareil. Oui, non, 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 mais je... non, très bien. Non, mais... C'est pour ça que je vous dis que sincèrement, hein, j'ai hâte que la France insoumise arrive au pouvoir, parce que le nombre d'insoumis qui vont nous expliquer, non mais c'est pas pareil. Non mais à l'époque on disait ça, mais c'est pas ce qu'on voulait dire. En fait c'est, non mais en fait c'est, non mais vous mélangez tout aussi, parce que là c'est nous là, voilà. Ok, non mais très bien, moi ça me va. On a changé d'époque, vous êtes de mauvaise foi. Ah ouais. Si c'est pour faire une politique de gauche, le 49-3. Oui, voilà, non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Vraiment, vous êtes prêt à justifier le 49-3, contre lequel vous vous êtes battu, mais bec et ongles pendant des années? Non, tout bien réfléchi, c'est pas mal. Ok, non, mais très bien. Dis donc, t'as une dent contre LFI, toi. Non, j'ai pas de dent contre LFI, pas du tout. Non, non. Et je suis vraiment sincère quand je dis que j'aimerais bien les voir au pouvoir. Hein. Y a un paquet de trucs qui vont me faire mourir de rire parce que j'ai de l'ironie et de la mémoire. Mais c'est très affectueux, hein. Pourquoi les partis politiques se refuseraient d'utiliser les droits constitutionnels auxquels ils ont accès? C'est pas moi qui ai critiqué le 49-3 pendant des années. Tu peux comprendre l'ironie qui consiste à vouer aux gémonies un article de la Constitution, puis l'appliquer quand on est en responsabilité. Il y a quelque chose de marrant, à minima. Légèrement hypocrite, à maxima. Mais je suis très content de vous voir dans mon chat défendre le 49-3. Putain, ça fait 10 ans que je stream. C'est pas tous les jours que je vois une défense du 49-3 dans mon chat. Ça me fait plaisir. Oh, bah voilà, très bien. Quel insoumis t'a dit qu'on utiliserait le 49-3? Ceux dans le chat qui me parlent de la constituante. Non mais on va être surpris, on va être surpris, on va effectivement voir des prises de position auxquelles on ne s'attend pas et ça va nous paraître bizarre. Est-ce qu'une présidence de gauche peut réviser direct la Constitution? Alors une présidence, non. Le président de la République n'a pas le pouvoir de modifier la Constitution, même par référendum. Il faut passer par un processus de réforme de la Constitution qui passe par l'adoption d'une loi constitutionnelle au Parlement. Comment s'instaure une nouvelle République? Pour instaurer une nouvelle république, il faut simplement modifier la Constitution par les canaux qui permettent la modification de la Constitution. En l'occurrence, il y en a deux. Soit c'est le Congrès, soit c'est le référendum. Si les Français votent une nouvelle Constitution par référendum, boum, on est en 6e République. C'est aussi simple que ça.
Obligé de modifier la Constitution, si l'armée prend le pouvoir et décide de rien faire voter, ça passera quand même pas. Non mais enfin, là t'inventes un scénario de prise de pouvoir par la force, par définition, il n'y a plus de loi. Enfin, si tu me demandes comment on fait pour changer la Constitution, je te réponds en fonction de la loi actuelle. Avec toutes les modifications de la Constitution depuis 1958, peut-on encore se dire être dans la Ve République? Tu sais que ta question, c'était le sujet d'un exposé que j'ai fait en droit constitutionnel quand j'étais étudiant. Je me suis farci toutes les modifications substantielles de la Constitution depuis 1958. Et la conclusion, c'est on s'en branle. Je plaisante pas. La Constitution, c'est on s'en fout. C'est pas important le numéro de la République. On peut être en cinquième, en sixième, en septième, en huitième, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le texte applicable à l'instant et le régime politique qu'il crée. Et ça peut changer au sein d'un même numéro de Constitution. La cinquième n'a rien à voir avant 62 et après 62, avant 74, après 74. Avant et après 92 aussi, on peut en discuter. Puis 2008. C'était marrant le versionning. Ouais, c'est vrai, on avait fait le versionning. Vous vous souvenez, on avait fait le versionning de la Constitution. On était arrivé à quoi? Vous vous souvenez ou pas? Je me souviens pas. La 5.12? La 5.5.2. Ouais, on est dans la 5.5.2. Est-ce que c'est constitutionnel de changer de constitution? Ouais. Dès lors que c'est prévu par la Constitution. Ce qui est le cas. Donc De Gaulle, c'était un coup d'État? Bah, son retour au pouvoir s'est fait dans des conditions troubles de la guerre d'Algérie, avec le soutien des généraux. Par contre, sa constitution, elle a été votée par le peuple français, par référendum. Donc, est-ce que tu pourrais créer une constitution qui rend inconstitutionnel de changer la constitution? Oui, tu peux. Il suffit d'écrire une constitution dans laquelle il n'y a pas de mécanisme de modification de la constitution. Mais s'il y a bien un truc que 200 ans d'histoire constitutionnelle nous a appris, c'est que ce n'est pas une très bonne idée de ne pas prévoir de mécanisme permettant la modification de la constitution. Si la Constitution ne le prévoit pas, les armes s'en chargent. C'est très joliment dit. C'est très joliment dit. Mais t'as parfaitement raison. C'est exactement ça. Et si tu crées un carcan duquel on ne peut pas sortir, sauf à être hors la loi, eh ben mon gars, tu te prépares à des moments bizarres. C'est comme un logiciel non patchable s'imposant à tous. Le premier qui trouve une faille, il est le roi du pétrole. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bonjour, je suis prof et ce matin j'ai eu une discussion animée en salle des profs sur un sujet éco. Je sais pas si t'es compétent sur la matière. Est-ce qu'il y a un traitement étatique différent entre les régions selon leur PIB, l'argent qu'elles rapportent à l'État ou les considérations économiques de ce genre? Non. Non, l'État n'est pas un acteur cynique. En tout cas, si on parle du calcul des dotations qui permettent aux collectivités de fonctionner, l'État ne regarde pas en fonction de la richesse de la commune. L'État regarde en fonction de la population, de ses besoins parfois spécifiques. Mais non. Putain, heureusement, t'imagines? Ceci étant, une fois que j'ai dit ça, l'État ne donne pas assez d'argent à la Seine-Saint-Denis, hein. Attention. La Seine-Saint-Denis est sous-financée par l'État par rapport à d'autres départements. C'est un scandale. Est-ce que l'armée peut s'opposer à aller en guerre? Non. Non. Non, 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 non. C'est vrai pour la Seine-Saint-Denis? Si oui, pourquoi? Bah ouais, c'est vrai, la Seine-Saint-Denis est un département sous-financé par l'État pour des raisons historiques. Pour des raisons historiques, il n'a jamais été assez financé. Il y avait, pour la petite histoire, c'est une histoire vraie, hein, il y avait peut-être il y a 10 ans, un truc comme ça, il y avait un député de droite, Les Républicains, qui avait été investi d'une mission de faire un rapport sur le financement de la Seine-Saint-Denis. Et il avait bossé, il avait fait son truc. Il avait rencontré les élus et tout, il était allé sur le terrain, machin. Et il était revenu effaré de ce qu'il a constaté. Vraiment, c'est son rapport et ce qu'il disait dans les interviews, c'était un député de droite, hein. Pas censé être favorable à la Seine-Saint-Denis. Mais il a dit, je suis désolé, c'est scandaleux. C'est scandaleux. La Seine-Saint-Denis a moins de pognon par habitant que les autres départements. Les services publics sont ravagés, sous-financés, manque de personnel. Et voilà, il était en mode, mais c'est fou. Je ne m'attendais pas à découvrir ça, en fait. J'en savais trop rien, mais... Est-ce qu'un soldat peut refuser de faire la guerre? Ça s'appelle une désertion. C'est un délit. Et il y a de la prison. Voilà. Non, je sais pas. On a arrêté de les fusiller. Il y a une époque, on le faisait, maintenant on le fait plus. Mais c'est quand même prison. Mmh. Il n'y a pas de droit de retrait pour les militaires? Le droit de retrait, c'est un droit des salariés de cesser le travail si leurs conditions de sécurité ne sont plus garanties. Je suis en train d'essayer d'imaginer un militaire. Ouais, il y a des balles qui fusent, ouais. Bah, c'est-à-dire que... Oui. C'est... Ouais, non, je sais pas. Je... Quels sont les recours s'il y a une tentative de putsch de l'armée en France? Bah, comment te dire? Il y a des recours juridiques. Mais comment te dire que les mecs qui ont des flingues entre les mains, ils n'en ont pas grand-chose à foutre de la loi sur le moment, là. Attention, c'est illégal ce que vous faites. Ça va pas beaucoup leur faire peur. Donc, quels sont les recours? Qu'est-ce que je te dis? S'il y a un putsch des militaires, il faut qu'il y ait d'autres militaires qui viennent, qui leur tirent dessus, qui les neutralisent et qui les empêchent de faire un coup d'État, quoi. Voilà. Le fait qu'on ait des alliés qui n'hésiteraient pas à intervenir militairement en cas de tentative de coup d'État, ça peut aider. Oui, par ailleurs. Est-il possible d'avoir une révolution non armée? Oui, bien sûr. Bah, la Tunisie, par exemple. Les printemps arabes, pas tous. Malheureusement, ne sont pas tous bien finis. Mais l'Égypte dans une moindre mesure, la place Maïdan en Ukraine, même s'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés, et une répression policière. La révolution des œillets. Donc, oui. Les gilets jaunes. Salut Jean, on entend les députés parler de navette parlementaire lors des discussions du budget. C'est quoi une navette parlementaire? La navette parlementaire, c'est le petit nom qu'on donne au fait que l'Assemblée nationale et le Sénat s'échangent les textes. Enfin, ça change pas, mais tu sais, les textes font des allers-retours. Première lecture à l'Assemblée, première lecture au Sénat, deuxième lecture à l'Assemblée, deuxième lecture au Sénat. On dit que le texte fait la navette entre les deux chambres. Voilà, ça vient de là. C'est ça qu'on appelle la navette. Avec les pit stops en CMP. Exactement. Moi, à chaque fois, j'imagine un minibus qui fait le trajet Palais Bourbon, Palais du Luxembourg. Moi, j'imagine un mec en mobylette, qui est là avec son petit casque et son dossier sous le bras avec la loi. Il va donner la loi. François Hollande en scooter, exactement. François Hollande en scooter. Ou les voleurs des bijoux de la couronne en T-Max. Putain, rendez les bijoux, merde. Rendez les bijoux de la couronne, on les a toujours pas retrouvés. Bonne question, tout est fait sur papier ou tout est informatisé maintenant? Tout est informatisé maintenant, mais je dois dire que l'Assemblée nationale et le Sénat sont quand même de gros utilisateurs de l'imprimante. Voilà, ça c'était le regard du jugement. Merci Sirius. Est-ce que les discussions au Sénat sont filmées comme à l'Assemblée? Ouais, absolument. Si vous voulez vous endormir, vous pouvez... Enfin non, je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous pouvez regarder les débats au Sénat. Ne nous dis pas qu'ils impriment un exemplaire du PLF pour chaque député avec les annexes. Non, vrai, enfin, c'est bref. Dire le Parlement et la justice, c'est probablement les deux endroits où j'ai vu le plus de papier au mètre carré. C'est comme ça. Bon, voilà, ça progresse, ça avance, ça va dans la bonne direction, ça réduit. On n'y est pas encore. On n'y est vraiment pas encore. Là, il y a... Putain. Vous avez déjà vu les magistrats avec leurs énormes... qui arrivent comme ça, quand vous les voyez aux infos, les magistrats qui arrivent avec leurs énormes dossiers comme ça, bam! Le dossier d'instruction qui a été envoyé, une copie a été envoyée à la partie... au parti civil, etc. Mon grand-père, quand il travaillait encore, il était expert auprès de la justice, spécialisé dans l'immobilier. Et à la fin de sa vie, il était spécialisé dans les dossiers complexes. Et quand il rendait ses conclusions d'expertise, on parle de 6000 pages de conclusions, il avait une secrétaire qui recomptait chacune des pages et qui vérifiait que le numéro de la page était le bon. Parce que s'il y avait une page sur laquelle il n'y avait pas le bon numéro ou s'ils intervertissaient par erreur deux pages, il y avait un vice de forme et on devait tout refaire. Et évidemment, le dossier d'expertise devait être imprimé, relié en trois exemplaires pour le magistrat, pour la partie civile, pour les deux parties, etc. Voilà. C'est bon, bah voilà, je vous dis, on faisait chauffer les imprimantes à l'époque. J'ai bossé au cadastre, pareil avec les notaires. Ouais, les notaires, pareil. Les notaires, pareil. Dossier, le droit notarial, les dossiers épais comme ça, avec des trucs hyper compliqués, les successions complexes, les machins. Les... Ah. Tu peux rappeler aux plus jeunes ce que c'est qu'une imprimante? Non. Non. Non, je refuse. Je refuse. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les notaires sont en train de tout dématérialiser et ça va devenir la norme. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Dis Jean, comment ça marche le papier? Le backup sur disquette. Pourquoi tu fais pas ton parti politique? Le mien de parti politique? Oh là, oh là, oh là le projet. Oh, ça va être compliqué. Bah parce que je vous connais, vous allez vouloir qu'on fasse une démocratie, qu'il y ait un congrès, machin et tout. Pas de ça chez moi. Chez moi, il y a un leader charismatique, c'est moi. Et tout le monde en randonnion derrière et vous applaudissez bien fort dans les meetings, ok? Et on aura une position mitigée sur le 49-3. C'est-à-dire que dans le programme, il y aura écrit le 49-3, alors faut voir, faut qu'on discute. Voilà, ce sera ça notre position sur le 49-3. Interdit sauf si besoin. Interdit sauf si besoin. Pas le 49-3. Vous choisirez entre le césarisme et le bonapartisme. Non, mais ouais, on fera ça une autre fois, hein, la création du parti. Je sens qu'on va s'embarquer dans un truc encore. Je me fatigue d'avance. On va s'arrêter là, les copains. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Donc, merci d'avoir été là. On a bien progressé aujourd'hui, je trouve, au niveau de... au niveau du relativisme du 49-3. Voilà, par exemple, progresse. On est passé d'une critique radicale à faut voir. Ce qui est déjà bien, ce qui est déjà bien. Merci d'avoir été là. J'arrive pas à conclure ce stream. Allez, on va s'arrêter là. Merci les copains, c'était cool. Des bisous. Ciao, bye bye.